Bien, avec votre permission, on va débuter cette journée sur la question des villes créatives et de l'économie créative. Donc, je vais vous souhaiter rapidement la bienvenue à l'espace Pierre Mendès France, où vous êtes aujourd'hui. Vous en dire deux mots avant de passer la parole à Christian Le Meignan, qui est le majordome de la journée et qui présentera à la fois les intervenants, mais surtout l'état d'esprit de cette présentation. Donc, petite particularité, vous le savez ou vous ne le savez pas. Ce matin, nous sommes sur l'avant-dernière journée de la Fête de la Science qui a lieu tous les ans. Et depuis 20 ans, l'Espace Mendès France coordonne la Fête de la Science en région Poitou-Charentes. Et depuis très longtemps, nous avons l'habitude, le vendredi de la Fête de la Science, de monter des journées d'études ou des journées de réflexion, où les questions scientifiques au sens large du terme, y compris faisant appel aux compétences des sciences de l'homme et de la société, sont traitées, parce qu'il nous semble qu'il est absolument indispensable dans les temps à venir que les sciences et les technologies soient mises en relation avec les décisions publiques, en particulier sur les territoires, de manière éclairée. Donc ici, vous êtes dans un centre de culture scientifique qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, qui a été créé à l'origine par des scientifiques des sciences dites dures, physiciens, chimistes, mathématiciens, et qui petit à petit a fait SAMU, et pour reprendre peut-être l'expression d'un ami de la maison qui s'appelle Edgar Morin, a fait sa métamorphose. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un centre de vulgarisation scientifique à un centre d'accès à la connaissance et surtout à un centre où sciences techniques et sociétés sont mises en débat. Vous êtes donc dans un centre qui a été construit en 1988 par la ville de Poitiers, le seul en France. En 88, donc depuis quelques collègues nous ont rejoints, mais relativement peu. Et au gré et au fil des années, nous avons peu à peu mis en place une plateforme de diffusion régionale qui nous a permis tout à la fois d'entrer en relation avec un certain nombre de décideurs publics sur des territoires, mais également de diffuser de la culture scientifique. L'Espace Mendès France, en 2011, ça sera 120 000 personnes. Un peu plus de 60 000 dans ce bâtiment et un peu plus de 55 000 en région. En région, nous mobilisons les compétences scientifiques de l'Université de Poitiers, mais de tous les grands organismes de recherche qui sont présents à nos côtés, CNRS, CEA, INSERM, IFREMER, INRA, au service d'expériences territoriales. Je pense que notre ami Joseph Joubert fera part de ce qui se passe sur l'Euzet avec la mise en œuvre d'une université populaire qui permet à la fois de présenter des thèmes qui intéressent le territoire, mais également de faire venir des scientifiques de l'université qui se confrontent à la réalité du territoire, à la réalité des décisions publiques. Dans cet esprit, il est bien évident que la question d'innovation est au cœur de la problématique. Les villes qui survivront seront celles qui sauront manager leur innovation, mais essentiellement l'innovation au sens social, c'est-à-dire l'organisation de leur territoire en faveur d'une forme nouvelle de vivre ensemble. Si je dis ça, c'est que tout simplement, il y a quelques jours, pour l'Espace Mendès France, j'ai été amené à aller aux États-Unis, puisque nous allons produire une exposition sur le bicentenaire de la Louisiane. Vous savez que le Poitiers est jumelé avec Lafayette en Louisiane. Et à cette occasion-là, je me suis retrouvé très en retard à cause d'une tempête tropicale dans un aéroport, à traîner dans la librairie du coin, enfin, chez le buraliste en fait. Et la première de couverture de The Scientist, c'était Will the town will be creative? Et derrière, il y avait un article d'une vingtaine de pages sur le management de la créativité. Alors là, on n'était pas du tout sur les échelles de ce matin. Chicago, Boston, Philadelphie sont en train de créer un réseau de villes sur la créativité, mais la notion de créativité étant entendue non pas du tout au sens universitaire, technologique du terme, mais c'était au sens social, des acteurs sociaux et des acteurs culturels. Donc on voit bien que ce mouvement qui est sous-jacent, qui demande encore à être porté par des discours un peu unificateurs et pas forcément théoriques, il est en marche dans un certain nombre de pays. Alors de cette notion d'innovation à la notion de créativité, de la notion de créativité à la notion de création, eh bien on voit des vieilles lunes qui reviennent. Rappelez-vous du livre de Cyrano de Bergerac, où on voyait bien qu'à travers sa volonté de s'envoler vers la Lune en utilisant la rosée du matin, mettait en scène art, science, technologie, interrogation sur les activités de l'homme. Et il y a un très beau texte autour de ça. Je reparlerai pas de ce que dit Victor Hugo dans Les Misérables sur la notion de progrès et ses rapports à la société. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est récurrent dans nos sociétés, et la notion de création, la notion d'appui à une problématique culturelle, c'est quelque chose qui intervient systématiquement dans des périodes de crise. L'espace Mendès France a cette question, essaie de mettre en place un certain nombre d'éléments non pas de réponse, mais d'éléments d'interrogation collective. Je finirai là-dessus. Ce centre qui est un centre de vulgarisation scientifique au départ, donc qui mobilise des questions scientifiques au service de la population, a peu à peu monté une série de points qui permettent d'interroger la question de la place des sciences dans la société, mais également en regardant ça du point de vue de l'histoire des sciences. Vous savez que ce centre assure le secrétariat général d'un pôle d'histoire des sciences en France qui est fort de 1800 chercheurs. Et donc il y a une liste d'intervenants francophones, en fait, hein, qui s'appelle TEUT. Et cette liste permet de traiter 700 à 800 thèmes d'histoire des sciences et des techniques. Et la place des territoires et les interrogations en termes de société sont présentes dans une multitude d'équipes de recherche. Le problème, c'est que tout le monde est éclaté dans son coin et il n'y a pas d'unification des recherches en France et dans le monde francophone autour de cette question de l'innovation et de la création. Donc l'espace Mendès France assure un certain nombre de plateformes. La prochaine aura lieu du 17 au 27 novembre. Nous allons lancer, d'ailleurs le lancement il a lieu dans quelques minutes avec la presse, nous allons lancer une mobilisation citoyenne pour préparer un plan de transition énergétique de Poitiers et de son agglomération qui soit fait par tout le monde, sauf par les institutions, sauf par EDF, sauf par GDF, sauf par la Sorégie, mais qui soit fait de manière citoyenne. Donc il y a une centaine de citoyens qui vont être ici dans cette salle formés à la connaissance de ce sujet qu'est la question énergétique et préparer les fondements d'un débat qui sortira du folklore actuel de sortir du nucléaire ou pas sortir du nucléaire, parce que le problème il n'est pas là. Le problème est sur la question des usages, la question de la présence de nos concitoyens. L'interrogation sur cette présence, elle passe à un moment ou à un autre par une connaissance que j'appellerais documentée pour sortir des discussions de café du commerce ou de la folklorisation des débats politiques actuels où chacun tient sa posture et finalement on n'arrive pas à trouver le tiers de confiance qui permet de faire émerger un certain nombre de questionnements autres. Formuler un questionnement autre, c'est aussi une façon de trouver des solutions autrement. Dernier point, je voulais simplement... Alors je fais pas de pub, donc je vous demande pas de l'acheter. Ceux d'entre vous qui lisent l'entreprise, auront vu, qui est sorti il y a 3 jours, auront vu le classement des villes de France en termes d'innovation. Poitiers est première sur les villes de 50 000 à 100 000 habitants. Et sur cette tranche de ville, dans la région, Royan est la dernière de cette tranche de ville. Et quand on regarde les critères, on se rend compte que, là aussi c'est une vieille lune, 80% des critères qui font qu'une ville est favorable à l'innovation, ce sont des villes qui ont des pôles universitaires ou des pôles de formation. Alors, la vraie question, c'est de savoir, en termes culturels et en termes de mobilisation en faveur d'une innovation, et quand on refait le schéma en amont vers la notion de créativité et la notion de capacité de création, quid du rapport à l'académie, quid du rapport au populaire, donc quid du rapport à la présence ou non d'établissements académiques, et quid de la capacité de ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'académie à susciter cette créativité, cette capacité de création qui font qu'un territoire peut résister ou peut se développer face à un certain nombre d'enjeux. Voilà, donc c'est quelques points que je souhaitais vous dire sur l'action de l'espace Mendès France. Quand je suis arrivé ici il y a 20 ans, l'espace Mendès France c'était 17 000 personnes par an intramuros. Je vous ai donné les chiffres et simplement si on a monté cette plateforme régionale avec l'aide d'un certain nombre d'amis qui sont dans la salle, c'est tout simplement parce que la science et l'innovation sont définitivement trop urbaines et pas assez présentes dans le monde rural, qui est pourtant, je dirais, le pilier de la suite de nos questions de société. Donc pour dire qu'il faut qu'on trouve d'autres modalités pour rendre à nos concitoyens un meilleur accès à la connaissance et une capacité d'être présent dans un monde moderne. Voilà, Christian, ce petit mot. Je te passe la parole pour présenter la journée.
Voilà. Bonjour. Donc, nous commençons cette journée. Je rappelle que Amandes France est aussi une équipe qui travaille sur les territoires, qui s'appelle Sciences, Innovation et Territoires. Et nous avons différentes activités, mais en particulier, effectivement, avec les universités populaires dans les territoires que l'on accompagne en leur amenant des scientifiques, mais en faisant toujours intervenir des gens du local. C'est-à-dire qu'on considère que la connaissance de plein air, celle qui est les savoir-faire locaux, sont aussi importants à connecter avec la connaissance académique. Et si cette connaissance de plein air est présente au moment où on fait la manifestation, les copains viennent parce que la personne est connue dans le coin, et en plus on peut marier concrètement ce qu'un scientifique peut dire, comment on peut l'appliquer au territoire. On l'a fait par exemple à Lezé avec des médecins qui sont venus sur la nutrition, mais on avait aussi des gens qui, en groupe locaux, se sont mis à faire, et la semaine prochaine, le 22, il y a la foire au vin. Vous avez des personnes qui ont suivi les conférences, qui se sont mis en groupe pour apprendre aux gens quels sont les aliments, les 7 aliments de base, et comment on peut les composer pour mieux se nourrir et pour avoir une activité. Voilà. Donc c'est bien d'avoir dans le local, enfin, des conférences, des situations. Encore faut-il que les gens du local se l'approprient. Voilà, il y a tout un problème d'appropriation. Ce n'est pas uniquement de faire des conférences, parce que vous partez, vous en discutez, puis après vous oubliez. Alors aujourd'hui, merci pour les maires et toutes les personnes qui sont venues pour essayer de réfléchir. On est en mouvement, c'est pas achevé. C'est une première que nous faisons. On a déjà rencontré beaucoup de maires dans les Deux-Sèvres. Monsieur de Arouillac est venu aussi. Et là, aujourd'hui, on a 8 maires, 2 de l'extérieur, qui sont venus pour donner leur point de vue autre que le Poitou-Charentes. Et puis d'autres maires qui vont témoigner. Donc c'est plutôt du débat que simplement des exposés. Et la première partie, je rappelais qu'il y a un nouveau livre qui vient de sortir de Roger Suve, que vous connaissez, c'est celui qui a développé l'idée du quaternaire, c'est-à-dire on sort du tertiaire pour aller vers le quaternaire, enfin, le quaternaire étant toute cette activité des services à la personne, de la connaissance appropriée. Et la première phrase que je vous ai mise sur l'introduction de la journée, c'est « La nouvelle économie des connaissances est de plus en plus fondée sur l'assemblage d'individualités cognitive, créative, imaginative, déployant un arsenal de connaissances, de compétences puisées et rassemblées tout au long de l'existence et au fil des expériences quotidiennes et de situations formatives. » Or, il se trouve que les maires qui sont présents, vous le diront, on se heurte dans le territoire toujours à 3 formes d'apprentissage qui sont sur la page derrière la page d'introduction que vous avez. Jackie, pour ceux qui n'en ont pas eu de programme qui sont arrivés après. C'est les 3 formes d'apprentissage: cognitif, comportemental et collectif. Le cognitif, c'est en ce moment on travaille sur le littoral. Le fait de Xintia a été très mal perçu, bien sûr, par les habitants, mais ils n'étaient pas prévenus que une force de vent, c'est une chose, mais la pression atmosphérique qui a appuyé comme si c'était dans une bassine sur la mer, a fait qu'il y a une vague qui a débordé. Les gens, ils ne savent pas ces phénomènes-là, ils ne les connaissent pas. D'autant plus que vous avez sur le littoral des gens qui ne sont pas du littoral, qui sont venus y habiter, mais qui ne sont pas ni ostréiculteurs, ni mitiliculteurs, ni pêcheurs, qui ont l'instinct un petit peu des lieux. Sachez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la voile, il a son GPS. On lui dit tourner à droite, il tourne à droite. Enfin, je veux dire, c'est en mer. Donc, c'est plus, les gens qui naviguent aujourd'hui ne savent même plus faire le point. Ils repèrent pas, ils savent pas les clignotants des phares. Enfin, donc, ils ont leur GPS comme dans la voiture. Et c'est des gens qui ne s'approprient pas la nature. Parce qu'ils sont un peu en dehors. Quoi. Enfin, ils ont des outils merveilleux, mais en même temps, ils sont plus de partie prenante proprement dite du littoral. Donc cognitif. L'apprentissage comportemental, ben c'est ce qu'on essaye de faire à Lezé. C'est cette année, après avoir travaillé sur les problèmes de nutrition, maintenant on travaille sur comment consommer mieux. Et consommer mieux, c'est consommer autrement, c'est les AMAP, c'est des comportements différents, c'est pas aller au supermarché pour avoir ces trucs, c'est du jardinage, c'est d'autres pratiques qu'on peut développer. Et donc, il y a un changement de comportement. Je me souviens toujours, j'ai donné un petit cours à Lyon, à l'école d'ingénieurs. Je sors, il pleut, j'attends le taxi, je me fais mouiller et tout, je fais du stop. C'est une Allemande, professeure d'allemand, qui me prend dans la voiture. Et sur son tableau de bord, il y avait plein de petites piles. Alors, je dis, vous collectionnez les piles? Elle dit non. C'était il y a longtemps. Mais en fait, je les ramène chez moi parce qu'en France, vous les jetez dans les poubelles, mais en Allemagne, on les recycle. Donc elle ramenait toutes ses piles en Allemagne quand elle allait voir ses parents. Donc c'est un problème de comportement. Maintenant, vous avez des petites boîtes pour récolter les piles dans les tabacs. Et encore, qui va vraiment jeter sa pile là où il faut? Donc il y a un problème de comportement. Et puis l'apprentissage collectif. Alors là, je crois que la plupart des maires présents l'ont fait parce que vous avez réuni des personnes, vous faites du théâtre, vous faites venir du spectacle vivant, vous mobilisez la personne. Et donc là, l'apprentissage collectif, ça veut dire travailler ensemble dans le territoire. C'est pas. Alors on va voir deux tables rondes. Une table ronde qui est plutôt sur comment on mobilise les acteurs dans le territoire pour retrouver une cohésion sociale si on l'a perdue, enfin comment faire en sorte pour que les gens se connaissent et se reconnaissent et travaillent ensemble, comment identifier les talents dans les territoires qui vont donner de l'identité à ce territoire qui n'est plus quelquefois avec toutes les personnes qui viennent. Vous savez qu'à Libourne, vous connaissez Libourne, vous voyez Libourne, comme c'est entouré de vignes, ils ne peuvent pas s'étendre ni construire autour, donc ils sont un peu bloqués dans leur... Eh bien, à Libourne, vous avez 50% pratiquement de gens qui viennent et qui partent tous les 5 ans. Vous voyez bien que si vous faites pas rencontrer les habitants, ils ne se connaissent pas, les réseaux ne se construisent pas. Mais je crois que dans vos villes, enfin vous en parlerez, il y a beaucoup d'habitants qui arrivent. Monsieur Siclina est dans une ville qui est entre Chartres et Dourdan, donc il a beaucoup de gens qui travaillent à Paris ou qui reviennent. Et c'est très difficile, ces gens qui sont là le soir. À Champigny, on avait le même problème, c'est une petite ville au-dessus d'Angoulême. Et le maire, qui était ingénieur de la DCN, s'est dit, pour réunir les gens, le dimanche après-midi, je vais faire un film, un cinéma, une fois par mois. Aujourd'hui, c'est tous les dimanches. Il y a un goûter pour les enfants, et puis il y a le film, et tout le monde se retrouve autour. Sinon, personne ne se voit. On va travailler, on revient, on fait ces trucs, et voilà. Donc, il y a un problème de cohésion sociale. Ça, c'est la première table ronde. Deuxième table ronde, on sera plutôt sur des dimensions d'attractivité du territoire. Comment rendre connu mon territoire, comment faire en sorte que, soit par des équipements, soit par une image, le territoire soit attractif. Et là, on aura des exemples plutôt, pour nous, dans Poitou-Charentes, un peu différents de vous, plutôt centrés sur les équipements qui ont pu être développés, certains types d'équipements, pas tous en milieu rural ou des activités qui permettent de dire c'est là que ça se passe. On le voit bien à Lezay, ils ont développé des cohabitats avec des structures d'insertion, ils travaillent avec le chanvre, ils travaillent avec de la terre compilée, ils ont rénové des choses de cette nature, et les gens viennent, d'autant qu'ils ont aussi une chaudière à bois pour l'ensemble des équipements collectifs, qu'ils ont développé beaucoup des choses dans l'éco-développement, et les gens viennent visiter pour voir comment ça marche. Et donc, il a de l'attractivité de ce point de vue-là, parce qu'il a innové dans ces domaines-là. Voilà, donc nous allons tout de suite passer peut-être à la première table ronde, qui va être animée par M. Anstram, Pierre-Henri Anstram, excusez-moi, j'ai... Pour tout le monde, j'écorche les noms, c'est mon défaut.
Si vous n'êtes pas dans la salle Confolant, vous êtes dans la salle Confluent.
Merci. Merci. Non, mais j'étais dyslexique à la naissance et je le suis toujours.
Mais c'est parce qu'on le sait.
Voilà, donc excusez-moi si j'écorche un petit peu vos noms. Et donc, cette première table ronde parlera plutôt de la gouvernance du territoire. Et donc, je vais appeler les maires qui veulent donc se joindre à M. Anstram, qui lui vient de Villeréa. Et puis, nous conclurons bien sûr cette journée avec M. Stéphane Merceron, qui vient de nous rejoindre, qui anime une structure qui s'appelle Eurocusto, Patrimoine et culture alimentaire de l'Europe, et qui nous parlera aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les slow. Alors c'est le slow food, le slow tourisme, le slow... Et c'est Gonzague n'est pas venu, mais c'est la ville du Poitou-Charentes qui s'appelle la ville lente. Comment retrouver une façon de vivre autrement, dans la lenteur? Alors, il y avait une petite ville dans Bretagne qui avait fait une expérience pour montrer qu'est-ce que c'était la lenteur. Ils ont interviewé maison par maison tous les habitants pour savoir comment les habitants vivaient il y a 50 ans. Et après, ils ont ramené des comptes et ils ont fait toute une manifestation sur la lenteur. On est toujours, enfin vous avez vu, il y a un dernier livre qui est sorti sur l'accélération, etc. Tout, il faut tout faire tout vite. Et puis il y a même un auteur qui parle de uchronie. Uchronie, c'est qu'on n'est même plus en temps réel, on est dans un espace où tout se passe en même temps. Comme moi, je vois, il y a des jeunes, enfin, puisque vous en avez beaucoup chez vous, qui téléphonent, travaillent sur ordinateur, en même temps sont en train de regarder le match de foot, enfin... Et puis, ils peuvent rester deux jours chez eux sans sortir. De toute façon, ils sont dans une bulle, là, l'uchronie, quoi. Il n'y a plus de temps. Voilà. Ça vous dit quelque chose ? Il y a des jeunes qui sourient. Bon. Alors que nous, on a eu du mal à se mettre au temps réel, déjà, parce qu'en temps réel, bon, il faut déjà gérer beaucoup d'informations. Mais alors là, maintenant, on est dans l'uchronie. Bien. Alors, si autour de monsieur... Monsieur Astron... Nicole Fortuné, si vous voulez venir, alors, qui est maire de Mazières-en-Gâtine. Mazières, bah, là aussi, oui. Nul. Jean Giray, bien sûr. Et puis, monsieur Éprinchard n'est pas arrivé. Donc, Jean Giray, si vous voulez venir avec... Donc là, c'est la première partie sur la gouverner autrement les territoires et mobiliser la population autour de cette gouvernance. Donc on a des présentations, bien sûr, de ces premières petites villes, de ce qu'elles ont fait. Et puis après, on essaye d'analyser les processus. Qu'est-ce qui a rendu magique le fait de pouvoir réunir la population ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est pérenne ? Comment on arrive à déployer les compétences dans le territoire, les talents dans le territoire et la créativité dans ce territoire, bien sûr, puisque c'est notre sujet. Je vous laisse, monsieur Vincent.
Merci. Donc moi, je suis le premier des représentants du plein air, ici. Et le plein air en question donc, se trouve dans le... nord du département du Lot-et-Garonne, dans une bastide du XIIIe siècle qui s'appelle Villeréal. Le Lot-et-Garonne est le premier département en France pour le nombre de bastides construites. Il y en a 40 qui ont été construites à la fin du XIIIe siècle, essentiellement. Et en France, il y en a 500, répartis sur toute la France. Ces bastides étaient créées à cette époque pour regrouper les paysans qui étaient dispersés. L'idée, c'était à la fois de créer des lieux de protection, des lieux de commerce et en même temps de conforter les seigneurs de l'époque qui étaient donc avec ces paysans qui étaient encore des serfs à l'époque. Hein. Et pour les attirer dans les bastides, on leur rendait la liberté quand les serfs... arrivés dans la Bastille, ils devenaient des hommes libres et ils avaient des arpents de terre qui leur étaient confiés. Bien sûr, ils payaient divers impôts, mais en tout cas, ils devenaient hommes libres. Et ces Bastides, donc, étaient déjà, et si j'en parle pendant quelques secondes, c'est parce que c'est important pour ce qui se passe aujourd'hui. C'était des espaces conviviaux. Les Bastides comportent toutes des lieux d'habitation et des petits jardins. Il y a des jardins à l'intérieur de chacune des bastides, dans toutes les rues, plus ou moins grandes. Bon, il y a des grosses maisons, il y a des petites maisons, il y a des grands et des petits jardins. Mais ça crée une vie particulière, avec la plupart du temps quand même un périmètre relativement restreint. C'est-à-dire, Villeréal, il y en a qui sont plus grandes, hein, mais Villeneuve-sur-Lot, c'est 30 000 habitants. Mais la plupart, ce sont des petits villages, comme Villeréal, 1350 habitants. Voilà. Et donc, dans ce village, moi, je suis natif par ma famille maternelle de Lot-et-Garonne, mais j'ai vécu et travaillé dans une grande ville, à Paris, en l'occurrence, jusqu'à il y a 5 ans, J'allais tous les ans à Villeréal en vacances, mais je n'y vis que depuis 5 ans.
Vous en étiez revanche, quoi quand vous étiez à Paris ?
Pardon ?
Vous étiez quoi quand vous étiez à Paris ?
Alors, j'ai été journaliste. J'ai travaillé dans différentes formes de presse et très rapidement, j'ai choisi la télévision. J'ai commencé à la télévision française en 1965. Il y avait une chaîne en noir et blanc. Et aujourd'hui, bon, vous connaissez le paysage. Et ensuite, j'ai travaillé, après la création des chaînes publiques à l'éclatement de l'ORTF, à Antenne 2 puis France 2. Et là, j'ai eu deux types d'activités. Dans l'information, très rapidement, je me suis dirigé vers l'encadrement et j'ai donc été le directeur de la rédaction d'Antenne 2 une première fois en 85-86. Et puis j'étais directeur de la rédaction de France 2 entre 1998 et 2001. Et puis, sinon, je me suis occupé d'émissions spéciales pendant 10 ans en créant le Téléthon, La Nuit des Étoiles, et une centaine d'émissions avec Bernard Pivot, Frédéric Mitterrand et d'autres. Donc, une activité qui était passionnante, avec beaucoup de création, et puis aussi la connaissance, je dirais, de l'entreprise publique, qui est pour moi essentielle. Et ensuite, après, quand j'ai quitté en 2001, il y a 10 ans, je me suis plutôt orienté vers le secteur associatif, et je me suis occupé de festivals de cinéma, en l'occurrence le festival de Biarritz, qui est un festival latino-américain, et puis maintenant je m'occupe du festival de Sarlat, et également en région, donc Aquitaine. Je travaille aux côtés de Claude Villers pour l'Agence régionale du livre et du cinéma, et j'ai créé un bureau d'accueil des tournages en Lot-et-Garonne pour favoriser les tournages dans notre département. Ça, c'est très récent. Voilà. Et sur le plan donc électif, j'ai été pendant 13 ans maire adjoint à Villeréal et depuis 2008, je suis maire de Villeréal.
Alors, c'était juste pour souligner l'importance de la vie personnelle des maires que nous avons avec nous, parce que Madame Fortuné était infirmière et très entreprenante, libérale. Monsieur Giré est professeur, enfin formateur dans le domaine agricole. Monsieur Joubert était directeur d'un grand centre à Lezay, quand même, de maison. Monsieur Sicunin, vous êtes conseiller en marketing. Madame Olliard est professeure à l'université. Donc, c'est pas. Et puis, monsieur Trénaud, je ne sais plus.
Une banque qui va peut-être faire famille. Le Crédit Agricole.
Mutualiste, quoi. Oui, oui. Et donc, c'est pas inintéressant de voir que l'origine, parce que ça veut dire que vous avez appris votre métier d'entrepreneur ailleurs et vous le mettez à disposition de la collectivité. Excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, mais vous avez tout à fait raison, M. Le Mélan, parce que il est évident que pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que j'ai rencontré, et ça c'est très, très important, la rencontre. J'ai rencontré il y a quelques années un jeune comédien professionnel. J'étais pas encore maire, j'étais encore adjoint, qui m'a dit est-ce que tu pourrais demander au maire de nous prêter la salle municipale pour qu'on puisse faire des représentations théâtrales, mais bon, on n'a pas beaucoup d'argent, on ne sait pas si ça va attirer du monde, et est-ce qu'on pourrait ne pas avoir à la louer. Donc j'ai plaidé sa cause, et on était une vingtaine dans la salle la première fois. L'année suivante, il est revenu. Il m'a dit « J'aimerais bien cette fois-ci pouvoir montrer 3 spectacles. » Donc, on l'a fait. Il y avait un peu plus de monde. Et puis après, on est passé à quelque chose donc, de tout à fait différent. Et c'est pour cette raison que je suis ici, puisque il y a eu... Là, je suis désolé parce que je passe à la deuxième table ronde. Il y a eu un article dans Le Monde qui a fait que... voilà, un beau jour, j'ai reçu un coup de fil en me disant « Est-ce que éventuellement vous pourriez venir à Poitiers au mois d'octobre ?» pour parler de cela. Donc, Samuel Vitoz, ce jeune comédien, m'a dit, voilà, je voudrais faire un festival à Villeréal, et un festival de création, et un festival en résidence. Et donc, les deux premières fois, donc 2009 et 2010, il y avait 30 comédiens qui sont venus pendant un mois et demi, et qui ont été accueillis par la population, c'est-à-dire qu'ils ont vécu chez les gens, ils ont écrit des textes et ils les ont créés sur place et ensuite ils les ont bien sûr exportés, si je puis dire. Le reste de l'année, ils sont allés les jouer ailleurs en France. Et c'est comme ça que les journalistes spécialisés, à l'époque, du Monde de Libération, avaient déjà fait des petits entrefilets en disant « On a vu des spectacles formidables, ils ont été créés dans un petit village tout au fond de la France. Bon. » Et la journaliste du Monde, qui avait donc vu ce spectacle à Paris, un de ces spectacles, est donc venue cette année pour voir les trois premiers jours du festival qui durent une semaine. Et ensuite, elle a fait un article qui est paru avant la fin, d'ailleurs, du festival. Et cet article, donc, a déclenché ma venue ici. Alors, cette année, on est maintenant au maximum de nos possibilités d'accueil, puisqu'on a 60 comédiens qui viennent pendant un mois et demi. Et donc, on a doublé le nombre de spectacles. Alors, ces comédiens viennent donc pour 80% des spectacles, les écrire sur place pendant leur résidence et les interpréter. Donc. Et il y a une partie de spectacles qui a été créée ailleurs et qui viennent compléter la programmation. Pour le coup, une association des amis du festival s'est créée au sein du village, spontanément, pour organiser cet accueil de 60 jeunes pendant un mois et demi. On a changé les dates parce qu'au départ, on était parti du 1er juillet au 15 août. C'était très difficile parce que pendant cette période, les gens chez eux, ils accueillent leurs familles, leurs amis. Donc c'était difficile d'accueillir en plus les comédiens. Donc on a décalé. Ils sont venus cette année du 1er juin jusqu'au 20 juillet. Et les spectacles ont été donnés donc, autour du 14 juillet, pendant toute une semaine. Autour de ces spectacles, et dès la première édition de ce festival, en 2009, il y avait l'idée de faire autre chose, qui m'avait bien plu, parce que c'est comme ça aussi que ça se passe à Biarritz, avec le festival Cinéma et Culture d'Amérique latine. Donc là, il y avait un café philo, avec des lectures de textes de Gilles Deleuze sur Spinoza la première année, sur Bergson la deuxième année. Il y avait un cabaret le soir avec certains comédiens qui étaient aussi chanteurs, créateurs de chansons et qui étaient interprètes, donc qui faisaient animer un cabaret entre 23h et 1h du matin. Et depuis 2010, la science est arrivée aussi, puisque un chercheur du CNRS est venu rejoindre la troupe, parce que voilà, là aussi, rencontre. Rencontre et passion, c'est comme ça que ça marche. Ce jeune chercheur est venu parler de la physique quantique. Et cette année, il a fait des expériences de physique quantique avec la population pendant le festival. Donc, les lectures de philosophie, c'est 3 jours. Et la physique, c'était 3 jours également, dans les après-midi. Il y avait à peu près 60 personnes chaque fois. Pour suivre la philo et le travail sur la physique quantique. Pour ce qui est des spectacles, et là aussi c'est une innovation qui fait que le village est totalement intégré. D'ailleurs, le sous-titre de Un festival à Villeréal, c'est le titre de la manifestation, voulu par son créateur, Samuel Vitoz. Et le sous-titre, c'est Voir le village autrement. Et donc, ils le voient effectivement autrement, puisqu'ils utilisent le village et les alentours, donc la forêt, une rivière, etc., pour y faire des lieux de spectacle. Cette année, ils avaient choisi comme thème d'écriture la mythologie des origines. Donc, ils ont, après s'être documenté, bibliothèque départementale, etc., ils ont écrit 4 épisodes de la création de Villeréal. 4 spectacles d'une heure, une heure et quart chacun, qu'ils ont joué dans différents lieux. Le premier, c'était dans la forêt, donc on partait en autocar, on ne savait pas où on allait, puis après on marchait pendant 10 minutes pour arriver à une clairière, et il y avait une première partie de spectacle. La deuxième, c'était près de la rivière, pareil, donc emmené en autocar, et les 2 dernières parties se trouvaient dans le village, dans 2 maisons différentes, et dans l'une des 2 maisons, il y avait aussi l'utilisation du jardin, donc jardin et maison. Ensuite, il y a eu des spectacles sur la place devant l'église, sous la halle de Villeréal, et dans des rues. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien de voir le village autrement et de faire en sorte que les spectacles soient intégrés dans la vie du village, avec une contrainte. C'est qu'en fonction des lieux, la jauge de spectateurs est réduite. Donc, dans certains cas, c'était 60, quelquefois 80. Et là, on pouvait dépasser. C'était sous la halle où on pouvait être... on a été jusqu'à 180. Ou devant l'église, on était à peu près 150. Voilà. Donc, on a maintenant pratiquement, je dirais, un tiers de public qui est un public de vacanciers. Un tiers d'un public régional, des gens qui viennent de 30, 40, 50 kilomètres parce que ça les intéresse et donc ils font le déplacement pour venir. Et un tiers de gens du village qui sont des membres de l'association, les amis du festival, mais pas seulement, des gens qui viennent voir. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire en introduction et on en parlera plus tard si vous avez des questions sur le sujet.
Vous avez l'hôtellerie suffisante pour le tiers d'extérieur, les deux tiers d'extérieur?
Alors, bon, ceux qui sont en vacances, ben voilà, ils sont en vacances sur place. Donc, ils sont dans les gîtes, dans les chambres d'hôtes, dans les campings, dans les hôtels éventuellement. Les gens de la région, ils ne dorment pas sur place. Hein, ils font 40 ou 50 km pour rentrer. Bon, quand on habite une grande ville, quelquefois, on met plus de temps pour aller de chez soi sur le lieu de spectacle et pour trouver une place de parking. Nous, on n'a pas ce problème, donc... les gens ont l'habitude de se déplacer pour... vraiment, sur entre 30 et 50 km, les gens se déplacent facilement pour aller voir un spectacle. Donc on n'a pas de problème pour le moment d'hôtellerie. Non. En revanche, on a, c'est vrai, noté pour la première fois cette année, ce sont les restaurateurs et les hôteliers qui me l'ont dit, des gens qui n'étaient pas venus et qui ne sont venus que pour le festival, parce qu'ils en avaient entendu parler, qui sont venus passer une semaine de vacances pour voir la totalité des spectacles. Il n'y a pas beaucoup, hein, une vingtaine de personnes. Voilà, c'est un petit début. Alors oui, je termine là-dessus aussi, c'est que on s'est mis d'accord avec Samuel. Nous, on ne veut pas faire Marciac. Hein. Donc, Marciac, c'était un village encore plus petit que le nôtre, un peu plus bas dans le Gers, avec des gens, des amoureux du jazz, moi aussi j'en suis un. Et ils ont dit, tiens, on va faire un petit festival de jazz. Aujourd'hui, c'est un des plus grands festivals au monde, le jazz, avec un chapiteau énorme et les plus grands musiciens du monde qui viennent jouer à Marciac. Bon, nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on est dans un travail de relation à l'intérieur du village. On veut garder quelque chose de très, 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 très convivial et on ne construira pas de chapiteaux pour faire des spectacles. On veut travailler dans le village. Alors, peut-être ce que l'on fera, peut-être qu'on allongera la durée, parce que s'il y a effectivement des troupes qui veulent venir et des gens qui sont là pour regarder leur travail, bon, jusqu'à un certain point quand même... parce que, bien sûr, les uns et les autres ont des activités. On ne peut pas augmenter le nombre. 60 personnes à loger dans un petit village, ce n'est pas évident. Mais, bon, la variante, je dirais, c'est pouvoir allonger la durée. C'est tout.
Mmh. Alors, c'est intéressant parce que vous avez votre association des amis qui est pris en charge par les habitants eux-mêmes et donc qui s'approprie cette démarche. Ce n'est pas que la démarche des artistes. Et peut-être que pour la créativité, il faudra revoir... mais de rester limité dans un contexte où les gens peuvent se communiquer est peut-être plus facile que le grand chapiteau où, à ce moment-là, c'est une autre problématique d'attractivité, c'est plus la même. Et c'est peut-être moins créatif, où la création se fait ailleurs. Puis quand les gens s'en vont, il n'y a plus rien pour se redéployer. C'est un autre village... Alors, vous disiez, quelqu'un a vu, c'est Jackie Doniol, vous connaissez Jackie Doniol qui est là, c'est la tête chercheuse du Poitou-Charentes. Donc, il identifie partout des gens qui font des choses et tout, et puis j'essaye d'après, avec lui, ensemble de construire quelque chose quand même, parce que une fois qu'on a vu tout ce qui se fait dans le monde en création, il faut quand même bâtir quelque chose derrière. Mais ça me faisait penser, dans ce que vous faites, à un réalisateur qui est dans son village et veut revenu pour les documentaires, Lussas, et qui a eu beaucoup de mal à convaincre les personnes d'accueillir des réalisateurs enfin, ou des comédiens enfin, pour faire passer des films documentaires. Et donc il a été obligé d'aller dans les foyers et il voyait une famille qui accueillait. en disant ben, faites venir vos cousins, vos amis, et puis on va faire juste avec 15, et puis le réalisateur vient chez vous. Et il a fait comme ça au moins une dizaine de familles avec les réalisateurs, les documentaires, et les gens étaient convaincus après. Et après, ça, bon, voilà, maintenant, le festival enfin, en français ou international du documentaire se fait à
Lussas,
voilà, en Ardèche. Oui. Voilà, voilà.
500 habitants.
Je connais, parce que c'est Jean-Marie Barbe donc, qui a créé cela, c'est un ami, et effectivement, c'est formidable, formidable.
Mais alors là aussi, il venait d'ailleurs, il avait un métier, enfin quelque chose qu'il a apporté. C'est pas du village, mais comme on est en pleine transformation dans nos villages avec nos nouveaux habitants dans les villages, et donc Madame Fortuné va pouvoir nous en parler parce que Mazières, en Gâtine, c'est à 20 km de Niort.
28,
pardon. Donc c'est un peu au nord de Niort. Donc il y a aussi du déversement, entre guillemets, de population qui fait l'aller-retour pour travailler à Niort et qui vient sur Mazières. Mais la problématique est un peu différente. C'est que Madame Fortuné avait 10 000 voitures qui passaient chaque jour sur la route. Et tout d'un coup, la départementale qui a été votée en 70, mais qui a, vous savez, c'est long avant d'avoir une déviation, s'est ouverte
en 2008.
Et à ce moment-là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de voitures qui passent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la mort du village ou quoi? Qu'est-ce que vous avez fait?
Voilà, donc, merci. Donc, c'est aussi à cause de Jackie Deniol, si je suis là, qui a repéré l'histoire et la démarche que nous avons eue à Mazières-en-Gâtine. Donc, juste pour situer Mazières et dans les Deux-Sèvres, au centre du département, et c'est un chef-lieu de canton, mais 1000 habitants. Et donc, c'est une commune rurale, hein, une identité très rurale, appartenant à une communauté de communes, pays Sud-Gâtine, de 12 communes, qui correspondent d'ailleurs au canton, puisque nous sommes chef-lieu de canton. Alors, Monsieur Le Meignon l'a bien dit, notre situation centrale et géographique fait que nous avons toujours été un carrefour routier, autant nord-sud que est-ouest, sachant que nous avons aussi la sortie d'autoroute A10 et A83 à 10 km. Donc, ça a toujours été un lieu de passage traversé. Et donc, comme l'a dit Monsieur Le Meignon, depuis 3 ans maintenant, nous sommes un village dévié. Donc, effectivement, c'est toute la problématique, peut-être, et peut-être grâce à ça, notre démarche que nous avons eue pour aussi faire vivre notre village autrement, en tout cas essayer de l'aménager et essayer de réinventer, parce que c'était ça. Cette déviation, ça a été une grande balafre dans notre paysage, et c'était en fait réinventer vraiment Mazières. Alors, juste le tissu chez nous associatif, il y a une réelle dynamique associative, mais il y a un constat très certain d'isolement de chaque association, et donc pas de dynamique collective. Je crois que c'est important de le dire. Et donc, suite à ce contexte de déviation qui a commencé, été inscrit d'intérêt public en 2004, nous nous sommes interrogés sur, d'une part, notre nouvelle identité de notre territoire qui allait subir qui a subi ce bouleversement, cette transformation, et aussi comment on allait faire participer la population. Parce que pour nous, c'était très important. Il fallait retrouver une cohésion sociale. C'était vraiment un village traversé et qui, semblait-il, n'avait pas d'âme entre, et pas une identité très, très déterminée. Ce bien vivre ensemble, maintenir l'attractivité du cœur du bourg et nos atouts paysagers, puisque nous sommes en paysage de bocage, donc c'était pour nous important. Et donc s'est enclenchée une démarche, donc dans le cadre de la requalification urbaine, une démarche de créativité en fait au service de notre projet d'urbanisme. Alors il y a eu une alliance d'une démarche prospective et d'urbanisme utopique, on peut dire, parallèlement à la démarche d'un cabinet classique. Mais ils ont travaillé, on va dire, ensemble, et ce qui a été une expérience intéressante. Et donc ce cabinet d'urbanisme utopique, c'est un collectif que certains d'entre vous connaissent sûrement, Bruit du Frigo, qui réside sur Bordeaux. et donc qui a travaillé, qui est venu sur notre territoire. Donc il fonctionnait de la façon suivante, c'était des mises en résidence, hein, il venait en résidence. Alors il y a eu un certain nombre bien sûr d'actions, alors il y avait notamment au départ des déambulations, hein, pour repérer, établir et partager des constats. Ensuite, se sont créés des ateliers, alors ce qu'ils appellent, eux, leurs ateliers d'urbanisme utopique. Alors, c'est des ateliers qui étaient menés avec les habitants pour imaginer des propositions, et on a suivi des propositions, on va dire, en interaction avec le cabinet d'urbanisme. Alors, il y a eu des expositions, hein, pour un petit peu restituer tout ce travail qui a été fait avec la population. Il y a eu notamment aussi un concert de musique improvisée avec les bruits locaux spécifiques de notre Gâtine. Et quelque chose d'événementiel qui a fait qu'il a fallu poser un acte fort, symbolique, on va dire fédérateur au niveau de la commune, c'est la réalisation de 3 photos géantes, c'est-à-dire tel jour, telle heure, la population est invitée. Alors aussi le cœur du village, ben, c'est l'église, c'est la place. En fait, ce geste très fort de cette photo, ou que chacun après a pu avoir, c'était bien évidemment pour se réapproprier cet espace où les 10 000 voitures passaient auparavant, et donc avec un pique-nique géant aussi, donc des déambulations, un pique-nique géant sur cet espace. Voilà, donc je crois que ça a été quelque chose donc qui a...
Pique-nique sur la route, sur où passaient les 10 000 voitures.
On avait étendu une grande nappe sur cette route.
Et tout le monde venait manger sur la route où il n'y avait plus les voitures.
Donc, il n'y avait plus ces voitures. C'est vrai que il s'est passé. Enfin bon, voilà, il y a eu vraiment un très grand bouleversement.
Mais à côté du routier, quoi.
Oui, absolument.
Il faut bien qu'il trouve une nouvelle clientèle, et il s'est transformé lui-même. Et vous disiez que même ce routier, qui a, du fait de cette dynamique, a pratiquement le même type de, le même nombre de repas aujourd'hui.
Les camions sont de retour, hein, et c'est notre grosse problématique, quid des camions et dans l'aménagement du bourg, parce que nous on pensait, bah, c'est chouette, quoi, on va pouvoir se débarrasser, enfin voilà, hein, vous avez bien compris, des camions, ben non, sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que aussi, je pense qu'on est vraiment impacté par le transport, et aussi on a les carrières. Des carrières importantes, hein, qui sont le groupe Eurovia et donc où il y a beaucoup de, bien sûr, de va-et-vient de camions, etc. Donc ces chauffeurs sont très attachés localement et donc viennent avec leurs camions de la même façon.
Alors la carrière est en dehors de la ville, bien sûr, mais donc, ils viennent se poser là au lieu de repartir parce que ben, y a les copains, quoi. Enfin,
voilà, alors ce bilan, juste je vais aussi dire un petit peu le bilan qu'on a fait de cette action qui a été quand même dans le temps, hein, elle a duré un certain temps, mais on peut dire quand même par rapport à toute notre démarche d'aménagement, c'est une action éphémère quelque part. Donc on a eu des satisfactions, mais aussi des déceptions par rapport à ça. Alors bien sûr, des satisfactions, c'était cette démarche participative avec les habitants qui nous a bien plu, hein, puis ce côté un peu décalé, hein, et il faut créatif, original. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur, dans l'équipe municipale, il faut être assez soudé quand même, parce qu'il ne faut pas avoir peur, il peut y avoir facilement des distensions qui puissent s'exercer sur ce type d'action. Donc voilà, on en mesure les peut-être les conséquences, mais voilà, je crois que c'est important de... Ben nous, on ne regrette pas du tout. Et aussi, il y a eu cette collecte, hein, d'informations, cette collecte de production et artistique et culturelle. Et aussi, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Quid de ce travail et de cette mémoire, hein, pour qu'il ne soit pas oublié. Alors, nos déceptions, bon, elles ont été aussi dans le sens que, je vous l'ai dit, on était un peu en recherche d'identité. Bon, cette recherche a été insatisfaite. C'est évident que je pense qu'une identité, on ne se la forge pas comme cela, d'un coup de baguette magique. Et aussi, nous n'avons pas enclenché une dynamique culturelle avec la population. Je parlais de cohésion sociale, on sentait bien qu'il fallait remettre du lien, du bien vivre ensemble avec toute cette population. Et ça a été une déception. Et, en fait, et nous poser aussi la question, comment utiliser une dynamique culturelle et éphémère, ou même dans la durée, et pour orienter un projet pour qu'elle devienne en fait une dynamique d'une vie de village. Hein, je pense que c'est le questionnement que nous avons tous. Alors, donc depuis, nous... Bon, il s'en est suivi, effectivement. Monsieur Le Meignon a donné un petit peu ma sensibilité aussi... mais c'était aussi une sensibilité très forte sur notre territoire de faire une étude d'analyse de besoins sociaux. C'était important qu'on appréhende un petit peu quel type de population il avait, quelles étaient les proportions intergénérationnelles, enfin tout ce que chacun de nous veut avoir connaissance pour avancer un petit peu, pour donner ce lien social. Et donc, suite à cette étude... Il s'en est suivi, si vous voulez, l'idée très forte que autour d'activités, il fallait solliciter, il fallait qu'on mette un petit peu des activités socio-culturelles en avant pour renforcer donc ce lien social. Et donc nous sommes rentrés aussi, puisque là je vous parlais, on était dans une requalification urbaine, donc une première tranche de travaux a été enclenchée, parce que les études c'est bien, les actions éphémères, mais il faut aussi des réalisations, et ça on sentait que c'était très important que nous puissions rentrer dans une réalisation, ce qui s'est fait par rapport à une rue. Mais nous sommes rentrés aussi dans un projet d'étude de réhabilitation du bâti concernant la salle socio-éducative, concernant la mairie, concernant l'école de musique, la bibliothèque, tout cela. Donc, là aussi, faire cette étude autrement, c'est-à-dire pas seulement revoir comment on allait aménager les bâtiments, mais surtout identifier bien qui les occupait, comment on allait mettre en avant ces projets socioculturels. Et c'est là aussi où, avec un cabinet, on s'est adjoint quelqu'un, moi je vous dirais pas qui est inclassable, mais que certains de vous connaissent, c'est Fazette Bordage. Donc c'est quelqu'un qui a une histoire à Poitiers, notamment. Oui. Puisqu'elle
pour nos invités, Fazette Bordage est... et de quelqu'un qui a monté le confort moderne à Poitiers, qui est en reprenant des friches industrielles pour faire un lieu de rencontre créatif. Voilà. Et depuis, elle en a fait 25 en France, et il y a un réseau de 50 lieux en Europe. Et donc, l'idée est partie d'ici. Et donc, elle est maintenant un peu consultante et elle vient sur Mazières.
Et oui, et donc nous, on est ravis de la voir parce qu'on voit bien que là, elle fait tout un travail, on va dire presque de mise en réseau des talents et des richesses de notre tissu associatif local. Et c'est ce que nous avions besoin. Donc là aussi, en lien avec le cabinet de programmistes sur ces bâtiments. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est vrai que nous avons aussi une expérience qui a été un peu le premier aménagement destiné à la redécouverte et la réappropriation de notre bourg. Ça a été une rando dont la thématique était sur l'eau et où nous avons aussi une action intéressante avec une inauguration de cette rando qui était 4 km autour du bourg. Et où les habitants pouvaient se réapproprier et redécouvrir et leur patrimoine et ce côté environnement très riche. Et donc, on a eu une mise en scène d'une compagnie qui s'appelle Métro Mouvance, hein, qui est, je pense, sur Thouars, et avec les impromptus de Molière, c'est-à-dire il y a eu des scénettes, et qui a été aussi mixé avec un guide conférentiel d'intemporel qui... nous parler du patrimoine qui déroulait un petit peu le patrimoine sur ce parcours. Alors, pour terminer, peut-être Donc c'est vrai que par rapport à des partenariats publics-privés, et moi je dirais que toutes ces manifestations, je pense que elles ont permis de créer un terreau un petit peu vivant et porteur d'initiatives. Et donc notamment sur la commune de Mazières, c'est peut-être pas par hasard, mais on a l'association, alors peut-être certaines femmes connaissent, Entreprendre au féminin, qui est une association qui a son siège à Mazières, qui est maintenant une association régionale, puisqu'elle s'est implantée dans tous les départements. Et donc, je pense que ça contribue, notamment, à cette richesse. Et puis, juste un autre exemple, la compagnie de danse Alea Cita, qui vient en résidence régulièrement et qui nous apporte son regard et son langage d'artiste, on va dire.
Après on fera un débat. On fait des petites présentations courtes, 10 minutes, et puis après on essaye d'analyser et de voir quels sont les éléments qui pourraient se reproduire ou au moins conceptualiser. Il y a Isabelle peut-être, Isabelle qui nous aidera. Elisabeth Macaire. Élise Macaire. comme ça, vous me connaissez. C'est Élise Macaire, qui est de l'école d'architecture de la Villette, mais qui est une penseuse et une chercheuse dans nos domaines aussi, qui peut nous aider à conceptualiser tout à l'heure. Bien. Et donc, tout à l'heure, Monsieur Amstram nous parlait de la rencontre passion qui faisait qu'il pouvait se faire quelque chose dans le village. Et là, vous utilisez... Bruit du frigo, métro mouvance, la compagnie de danse, etc., pour relancer une dynamique dans le territoire, que les gens se rencontrent. Et puis, vous avez fait cette randonnée qui est intéressante et qui rejoint ce Bouillé-Saint-Paul où Monsieur Giret parle non plus de spectacle de rue, parce que lui, il est à Bouillé-Saint-Paul, il parle de spectacle de chemin. Parce que les rues, c'est dans la ville, tandis que lui, c'est dans les chemins. Enfin, je vous donne la parole.
Oui.
On va essayer en 10 minutes de présenter un petit peu la démarche et surtout pour après ouvrir le débat sur justement les aspects aussi de créativité. Alors, bon, je me présente, donc je suis maire de la commune de Bouillé-Saint-Paul, plus petite commune. Représenté ici, 401 habitants, mais 360 en 99. Aussi dans une communauté de communes de l'Argentonnette, 10 000 habitants, dont je suis vice-président sur la partie aménagement du territoire habitat. Et dans le syndicat du Pays Toircet, 42 000 habitants, je suis vice-président sur la culture et patrimoine. C'est important parce qu'effectivement, si la commune, justement, est le terreau pour beaucoup d'initiatives, c'est intéressant d'être en réseau et de aussi pouvoir le conjuguer à l'échelle de l'intercommunalité. Ça permet aussi de faire des liens, des ponts, et puis se donner aussi les moyens pour une politique culturelle sur un territoire aussi plus vaste.
Alors, avec le fait que les communautés de communes, parfois, retirent la compétence culture, puisqu'elle est... Et si vous avez pris la présidence cette compétence au niveau du pays, pour pouvoir le faire chez vous. Ouais. Mais à Pougny-Risson, qui est notre lieu symbolique, qui est le nombril du monde... le maire, la compétence culture est partie à la communauté de communes et il a du mal parce que dans la communauté de communes, c'est plus important d'avoir une piscine que d'avoir le nombril du monde avec Yannick Hollin.
Sauf que très concrètement, quand on est sur justement l'investissement dans une politique culturelle en prise avec les habitants, je crois que chacun peut avoir sa place même dans la compétence. Je vous en dirai quelques mots. Moi, je œuvrerai beaucoup pour que la communauté commune de l'Argentonnais prenne une compétence dans la résidence d'artistes pour ne pas être que sur de la diffusion, mais de la création, justement, de la créativité. Pour moi, ça me semblait pertinent d'être à l'échelle intercommunale. Ça s'est bien passé il y a 2-3 ans puisqu'elle l'a pris en compte. On a fait une première résidence d'artistes avec la compagnie Pyramide de Rochefort, compagnie de hip-hop. Donc, c'était aussi une réponse entre culture urbaine, culture rurale. On a travaillé avec les collèges, ça a vraiment très très bien fonctionné. Nous, on a pris effectivement dans le festival leur spectacle. Et la comédie commune s'est engagée tous les 2 ans à accueillir une résidence d'artistes. Cette année, c'est une résidence en Landart sur l'aménagement de la vallée d'Argentan. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et on peut très bien fonctionner au contraire. Après, effectivement, si la commune n'a plus la compétence, si elle veut intervenir, elle va intervenir dans tout ce qui est dynamique, elle peut intervenir sur la communication, elle peut... Bon, bref, il y a toujours... Et au contraire, on a besoin des différents échelons pour avoir une politique efficace. Je reviens juste sur la présentation rapide, ce qui m'amène ici ce matin. Donc, dès 1995, donc la nouvelle municipalité s'est posée la question de valorisation de son patrimoine. On avait quatre axes, hein, puisque effectivement, comme on le disait, l'innovation, elle est pratique. On est condamné à innover sur un territoire rural quand on a 420 habitants. 280 000 euros de budget, 35 à 40 000 euros pour pouvoir investir chaque année. Comme je le disais souvent sous forme de boutade au niveau des conseillers, je dis 30 000 euros, ça nous fait un kilomètre de route, et on n'en parle plus, on n'a plus besoin de se poser de questions. Et donc on a au contraire eu envie de s'interroger sur quatre axes. Bon, il y avait le maintien des services, la réhabilitation de logements en centre-bourg, puisque c'était plutôt réhabiliter que construire un lotissement à l'époque. C'est également donc la restauration du patrimoine, donc du petit patrimoine, et on est parti au début sur plutôt l'animation de ce petit patrimoine. Après, ça va devenir plutôt un projet culturel, puisque c'était mettre en valeur ce patrimoine. Donc ça donnait naissance très rapidement, à partir de 1999, à un festival, Festival des Arts de la Rue, donc à l'initiative de la municipalité, mais avec une base associative, parce que ce qui nous intéressait, c'était de mobiliser la population sur un festival, en sachant qu'on pouvait, si on n'avait pas de richesse économique, pas d'entreprise, on avait quand même une base associative intéressante, avec aussi un historique sur une société d'éducation populaire, sur un théâtre, etc. Ce qui nous a permis rapidement de mobiliser une centaine d'habitants sur la mise en place de ce festival. Les Arts de la Rue, c'était une rencontre en 1996 avec plusieurs programmateurs de festivals, et puis pour moi, en ce qui me concerne, et puis je l'ai plutôt communiqué à l'équipe municipale et à l'association, ça a été aussi une découverte de cette intervention artistique dans les espaces publics, puisque les Arts de la Rue interpellent. Il y a une richesse, une diversité importante, et je trouvais que ça accompagnait bien le projet politique qu'on avait de mettre un petit peu en bouillonnement notre village. D'ailleurs, le festival s'appelle Bouillet, c'est issu d'un Bouillet EZ avec un point d'exclamation. C'est issu du travail qu'on a pu conduire avec les artistes sur le thème du bouillonnement d'idées. Donc, ce festival a pris de l'ampleur. On accueille à peu près 14 compagnies chaque année. On est parti tout de suite sur un axe de dire on prend des compagnies professionnelles. Pour être tout de suite sur une qualité de spectacle en milieu rural, spectacle vivant, ça nous paraissait très important, et aussi je rejoins tout à fait les propos sur le public, un public mixte, population locale qui va pouvoir bénéficier de spectacle vivant, peut-être le seul dans l'année, et puis bien sûr des habitués, mais surtout être dans cette démarche de travail avec la population sur la préparation, et aussi offrir à la population locale ce spectacle-là. Éviter le festival hors sol. Je ne citerai pas les festivals de l'art de la rue. J'y suis aussi allé pour de la programmation, Aurillac par exemple, qui est vraiment en fin de compte un très très gros festival, mais la ville, on la voit plus beaucoup. Il y a par contre d'autres qui ont des démarches très, très intéressantes. Donc ça a été le point de départ, de partir tout de suite sur une ligne artistique très forte. Et puis, je dirais, la première année, ça a été une réussite. On a fait venir une compagnie de Lyon, une chanteuse québécoise. Donc la première question, c'est de dire, bon, on refait la même chose. Elle dit non, il faut repartir justement sur quelque chose de nouveau. Et c'est là où la rencontre avec plusieurs artistes des Arts de la Rue nous a permis de diversifier. Donc, deuxième, ça c'est le lancement, pour dire, du Festival des Arts de la Rue avec l'association. Et bien sûr l'implication de la municipalité autour du site d'un ancien château donc, que la commune avait acheté en 1996. Ensuite, deuxième démarche, plus à l'échelle intercommunale, celle sur l'aménagement des bourgs. On avait conduit à l'échelle de la commune un programme intercommunal de valorisation des bourgs avec plusieurs partenaires, dont le CAU des Deux-Sèvres, pour initier au niveau de chaque commune une démarche qualité sur l'aménagement des espaces publics, avoir une démarche globale, avoir une réflexion en amont, pas faire les choses morcelées ou émiettées, mais plutôt essayer de voir la cohérence d'ensemble. En 2003, on était prêt à démarrer donc cet aménagement, et en fin de compte, on s'est interrogé sur la place que prenait le festival dans l'espace public. la place dans tous les sens du terme, puisque effectivement nos espaces publics, on a une petite commune de 420 habitants avec un habitat aussi très dispersé, et ça nous interroge, on est toujours interrogé sur la fonction des espaces publics. Il faut savoir que la place du village, on va changer l'image d'Épinal, c'est pas là où tout le monde se rencontre tous les matins, c'est le parking pour le restaurant d'ailleurs qu'on a mis en place il y a maintenant 10 ans et qui fonctionne très bien. Donc c'est aussi s'interroger sur ces nouvelles fonctions, et on a vu quand même, on l'a trouvé, et le festival nous a interpellés, parce que le festival des arts de la rue, c'était initialement dans le site de l'ancien château, donc quelque chose de très fermé, le spectacle réduit dans un seul espace, le patrimoine qu'on voulait mettre en avant, et puis les compagnies nous ont amenés... À chaque fois, c'est toujours imprévu. On prévoit toujours qu'elles vont s'installer ici sur les aspects techniques. Puis finalement, c'est toujours 50 mètres plus loin, etc. le jour même, ce qui est intéressant. Et on est arrivé jusqu'à aussi une année, donc aller beaucoup plus loin et à transformer le village en plage. Bon, d'autres, bien sûr, plus importants que nous l'ont fait bien après. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais
c'était
bouillé sur mer. Et en fin de compte, ça a été pour, si je le rappelle, parce que ça a été à la fois pour la commune et les habitants, un bouleversement, puisqu'on a ramené plusieurs camions de sable partout. Voilà. Donc ça a été un bouleversement, et ça a permis de transformer un petit peu le regard qu'on avait sur notre quotidien, sur effectivement nos espaces publics, voire privés, parce qu'on déborde aussi lors du festival. Donc la question a été posée, si on fait de l'aménagement en centre-bourg, on ne peut pas faire autrement que d'y associer des artistes. Et c'est là où donc on a construit un cahier des charges avec, je dis, les partenaires que sont donc le CAUE, la comité de communes aussi avec les chargés de mission, le pays, la région qui travaillait aussi sur cette notion de l'espace public, et le département. Donc ça a été un accompagnement technique qui a permis de dresser un cahier des charges où on partait sur un diagnostic, concept et principe d'intervention, et puis bien sûr programme de réalisation. Et associant donc architectes, paysagistes, scénographes et artistes. Et on a retenu, on a eu une dizaine de réponses, ce qui nous a plutôt satisfait. On a retenu celui qui était le collectif qui était le plus près finalement des arts de la rue, plus que sur de l'aménagement. Et donc c'est le collectif ici même de Paris, avec Marc Hetz comme directeur, et puis l'interlieu paysage donc de Lille. Plus éloigné géographiquement, mais j'ai eu l'occasion de le dire aussi, très impliqué sur le territoire. Et ça a été un petit peu le pari en prenant ce collectif de savoir s'ils allaient intervenir, être assez proches finalement. Et quand ils venaient, c'était vraiment pour plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Donc ça a été un point très intéressant. Ce travail nous a amené aussi à être sur la participation des habitants. On a eu une remise en cause de leur part aussi sur notre façon de procéder. Je dis souvent la réunion publique qui était, pour moi, à mes yeux déjà, un acte démocratique important, puisqu'on invite tout le monde. Et en fin de compte, la réunion publique a aussi sélectionne aussi un type de public. Tout le monde ne prend pas la parole. On présente un PowerPoint, ça s'adresse aussi à des personnes qui sont habituées. Et ils nous ont interpellés aussi sur ces aspects-là. Donc ça a été aussi ce travail de lien entre la population, la mobilisation de la population et le principe d'intervention. Donc leur étude, pour aller très rapidement, leur étude donc a consisté par la suite à proposer deux principes d'intervention. Un, justement, sur les chemins, puisqu'on a donc une commune habitat très dispersée avec plusieurs hameaux. Donc c'était... On n'avait pas forcément vu les chemins comme des espaces publics. Et pourtant, en milieu rural, c'est important. Ils avaient une fonction sur une commune agricole, une fonction effectivement de circulation d'engins agricoles, un petit peu de randonnée, bien sûr. Mais là, une autre dimension a été prise avec justement la partie artistique pour aboutir donc à une première opération qui s'appelait Piste et Bouillée, avec l'intervention d'une vingtaine d'artistes sur un premier travail de fond qui a pu faire donc le collectif ici même sur le repérage des chemins, ce qu'ils représentaient comme potentiel d'investissement sur le plan scénographie. C'est effectivement quelque chose d'assez dans le détail, assez intimiste aussi, mais qui est intéressant dans l'approche qui a été faite. Et on a eu effectivement une restitution de qualité de leur part. Donc ça, c'est cette première opération, elle s'est déroulée en 2010, on avait 800 personnes. Ça a été pour nous effectivement un point important. Ça nous a amené aussi à se poser la question de l'éphémère et du durable, puisqu'on faisait intervenir des artistes. On partait aussi sur l'idée d'implantation d'œuvres durables, pérennes, parce que c'est de l'investissement. Il y a des coûts. Hein. Une opération comme ça, c'est aussi un coût pour la commune. Et en fin de compte, on a eu beaucoup aussi d'interpellations sur qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui dure, est-ce que c'est l'œuvre qui est plantée à un moment donné, ou est-ce que c'est l'événement qui a mobilisé énormément la population. Et c'est vrai que ça nous a amené à prendre en considération aussi tout événement qui finalement va mobiliser, conduire. Alors on a bien sûr de cette opération pistée bouillée des traces qui restent, mais celles qui sont les plus importantes sont peut-être celles qui sont issues du travail qu'on a pu faire, qui a mobilisé une centaine de personnes et qui a pu permettre aussi de rencontrer et affirmer cette approche artistique au niveau des espaces publics sur les chemins. Le deuxième intervention issue de cette programme d'intervention issue de cette étude, donc c'est l'aménagement de... C'est pas de l'aménagement d'ailleurs, je fais les jeunes. C'est plutôt la création d'un nouvel espace public, puisqu'on partait sur une étude d'aménagement et ce travail donc avec l'approche des scénographes est arrivé davantage sur la nécessité de créer un nouvel espace public entre le site du château et la place du village, où c'était le site du château très fermé et des douves, et donc la notion de créer une digue, mais au contraire qui va à la fois montrer la frontière, mais en même temps inviter à passer cet espace public. Et on a eu une discussion assez longue justement avec aussi bien le paysagiste qu'ici même sur la nécessité de créer de nouveaux espaces, non pas faire de l'aménagement, mais créer de nouveaux espaces, ça veut dire que c'est un geste fort, c'est quelque chose qu'il faut aussi assumer politiquement aussi au niveau de l'équipe municipale, ça bouscule les choses. On a un site, un ancien château qu'on voulait bien sûr garder, mais on voulait être aussi sur de la création plus contemporaine qui finalement trace de nouveaux espaces publics nécessaires aujourd'hui en 2010-2011 pour la population. Donc ça a été le deuxième chantier, c'est un investissement de 340 000 euros, il va se terminer fin 2011.
On est passé de la douve à la digue.
Voilà, de la douve à la digue, avec toujours cette approche artistique, et cette année, le festival, comme on était en plein chantier, a utilisé le thème du chantier pour travailler à la fois avec des compagnies, et puis aussi, on a depuis le début du festival, travaillé entre artistes et bénévoles sur des projets d'installation. Et ça nous paraît important parce que la création, la créativité passe. Les artistes transmettent aussi. Titre exemple, sur Piste et Bouillie, on a travaillé sur l'habitat imaginaire, l'habitat éphémère, avec justement le collectif ici même, tout un travail sur ce qu'est l'habitat éphémère, aussi bien pour ceux qui logent sur les tentes, que pour, parce qu'on était parti sur le principe de cabane, que pour ceux qui sont effectivement sur des logements de ceinture bois, etc. Bon, ça donnait lieu tout à une foison de création. On a deux bénévoles, un retraité menuisier et l'autre charcutier-boucher, qui sont lancés dans la fabrication de nichoirs, parce que c'est l'habitat éphémère aussi, qui a été mis en piste et bouillée. Ils vont intervenir auprès des écoles de la commune dans le programme prochain, avec une association sur le compte. Bon, voilà, c'est aussi la créativité, elle est aussi dans des personnes qui ne soupçonnaient pas leur talent sur cet aspect-là.
C'est quelque chose qui tient au cœur du président de votre conseil général.
Oui,
Toutes les écoles allaient mettre des nichoirs pour les oiseaux sur les deux sèvres.
Donc c'était, mais voilà, partant d'un concept de l'habitat éphémère, on arrivait aussi sur cet aspect de créativité. C'est pour ça que sur l'aspect créativité, quand j'y avais trois choses, c'est que les personnes aussi puissent se créer. C'est aussi, on a eu le débat très vite sur reconnaître aussi la part d'investissement humain et le coût de la création. Bon, quand on est sur les spectacles, je me rappelle le premier spectacle, c'était 10 000 francs. Je le cite souvent parce qu'il y a eu un grand débat au niveau de l'association. Le spectacle, c'est Accompagné l'excuse de Lyon, c'était 55 minutes. On fait un repas, le boulanger fournissait les repas, on devait lui payer 3 000 francs. Ses pâtisseries, quelque chose comme ça. Il avait travaillé toute la nuit, il dit c'est pas normal. Donc on a travaillé aussi sur c'est quoi la création, puisqu'un spectacle demande de la création. Et il y a des coûts induits, c'est reconnaître aussi le travail. Et c'est important de prendre le temps d'expliquer et reconnaître la créativité, c'est reconnaître aussi le coût ensuite dans l'achat de spectacle.
Bien.
Voilà. Et puis, sur la conclusion, c'est plus en, comme ça en vrac, ce qui reste de cette expérience qui se termine dans, on va dire, dans les travaux, dans les réalisations, mais qui se continue, puisque il y a bien sûr d'autres projets. C'est la réflexion qu'on a pu avoir sur les espaces publics, notamment en milieu rural et leurs fonctions. La nécessité d'inventer de nouveaux rituels, parce que si on n'a pas une volonté et vraiment une politique volontariste de créer de nouvelles formes de rencontres, notamment en milieu rural, eh bien on ne peut pas mobiliser aussi la population. Alors elle peut être diverse, le festival y participe, les parcours artistiques aussi au niveau des chemins, une démarche participative, et puis aussi dans les travaux qu'on a pu faire, la production de sens, puisque ça a été un travail en fin de compte entre ce collectif d'artistes, l'architecte, paysagiste, la municipalité. Ça, je crois, c'est important d'avoir un travail d'équipe. Moi, j'ai jamais voulu travailler trop avec les artistes et ensuite restituer au conseil municipal. On a souvent fait des réunions collectives, et ça, c'est important pour que personne ne perde le fil, puisqu'après, il faut assumer politiquement. Il faut au moins que toute l'équipe municipale ou une grande majorité l'assume après auprès de la population.
Merci. Production de sens, c'est effectivement notre question, hein, parce que... Que les gens retrouvent un sens nouveau dans l'habiter ensemble. Et vous avez la petite phrase dans le texte que j'aime bien de Ricoeur, qui est le sens est à l'articulation des expériences du passé et des horizons d'attente. Vous, élus, vous mettez en mouvement les personnes qui sont autour de vous, élus, artistes, population, associations, mais en même temps, chaque fois que vous avez créé un événement, c'était un mouvement que vous mettiez. Mais encore faut-il, pour que ce ne soit pas éphémère, qu'il y ait un récit qui sorte de ce mouvement. On le voyait à Mazières quand on y est allé la dernière fois. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, il faut sortir un livre, il faut sortir un film, il faut sortir un documentaire, il faut sortir une histoire, parce que vous êtes en train de construire votre histoire dans le territoire. Mais comme vous le dites, l'événement reste dans la tête des 100 personnes qui ont peut-être participé à l'événement. Les œuvres qui restent là rappellent symboliquement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais il faut raconter une histoire nouvelle de ce territoire qui n'est plus celui du monde agricole qui vivait là, autour du château, qui est une nouvelle histoire que vous mettez. Alors je termine avec Touraine qui dit qu'on est tous, chacun, à construire notre historicité. Oh là là, c'est beau. Hein. Mais il faut bien y penser, parce que vous disiez toujours c'est éphémère, il faut relancer. Comment relancer? Si vous voulez laisser la trace, puisqu'il y a des expériences nouvelles que vous êtes en train de faire, ce n'est pas les expériences des anciens qui habitaient là avant, mais vous, votre expérience, elle se cumule, et donc vous êtes en train de créer une nouvelle histoire, mais il faut l'écrire au fur et à mesure. Pardon, je vous laisse la parole pour reprendre la parole et commenter les exemples.
Oui, sur l'éphémère, effectivement, puisque Jackie Denieul a vu donc cet article sur le festival à Villeréal qui a fait que je suis là aujourd'hui. Mais en écoutant les autres maires présents ici, je fais référence aussi à ce que nous faisons pour qu'il n'y ait pas que de l'éphémère, parce que le festival... même si, il prend une certaine place dans le village en termes physiques et puis dans la durée, mais il n'est quand même qu'éphémère. Ce qui est important, c'est qu'il y ait d'autres types d'actions qui font que le village est associé à de la création dans différents domaines en permanence tout au long de l'année. Et donc j'en dirai deux mots rapidement. D'abord, j'ai effectivement lancé avec l'équipe municipale un aménagement de chemin de randonnée en chemin de Landart. La première année, c'était uniquement avec des artistes vivant dans le village et autour, un Français et une Anglaise. Et puis, depuis donc 2 ans, ce sont les habitants du village qui sont appelés à créer sur le chemin des œuvres. Et donc, on a des gens très différents.
On y a amené aussi les enfants des écoles. On y a amené aussi les personnes qui sont à la maison de retraite et qui ont donc créé. Et créé, donc, bien sûr, en utilisant, comme pour le Land Art, les éléments naturels et en décorant les chemins, mais aussi, par exemple, pour les enfants, on a convaincu assez facilement paysan qui a un champ de pruniers qui borde ce chemin, qu'il y ait une quarantaine d'arbres qui soient décorés par les enfants de façon permanente pendant un an, deux ans, trois ans. On verra comment la nature fera évoluer ses œuvres. Et donc, au début, il était très surpris qu'on lui dise qu'on va toucher ses pruniers. Puis il avait peur qu'on les abîme, etc., etc. Et donc, il a compris. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette association qui avait été créée donc, il y a quatre ans maintenant, qui était présidée par l'un des artistes français qui habitait donc, à Villeréal, elle est présidée aujourd'hui par une Anglaise, artiste aussi. Et donc, ça mélange un peu la population ancienne et la population nouvelle, elle est là depuis une dizaine d'années. Bon, on a fait dans un tout autre domaine des jardins partage. Et là aussi, ben voilà, ça crée un mouvement, ça crée des liens, ça crée, et avec là aussi un mélange de populations anciennes, puisque c'est un vieux paysan qui a été le conseiller des nouveaux habitants, utilisateurs de ces jardins, des gens qui étaient arrivés dans le village il y a peu de temps, mais qui étaient des passionnés de jardin aussi sont venus là, et puis des gens venus aussi de Grande-Bretagne qui se sont investi dans ces jardins. Et enfin, dernièrement, il faut qu'il se passe des choses toute l'année, parce que si c'est simplement pendant l'été, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc là, il y a 8 ans, on a eu une initiative qui était de s'abonner à Ciel Écran, qui est une société qui distribue des programmes par satellite, essentiellement du théâtre d'ailleurs, mais il y a aussi des concerts et maintenant des opéras. Et cette société donc distribue de septembre à juin, donc hors l'été, une fois par mois, des spectacles retransmis avec une qualité technique qui est très très bonne, transmis en numérique. Et donc on a investi, ça c'était un choix donc, d'investissement, pour avoir antenne satellite, décodeur, tout l'appareil nécessaire, vidéoprojecteur, grand écran, et un peu plus encore, puisque moi j'ai dit, on ne va pas mettre les spectateurs sur les chaises du loto, ça ne va pas. Donc on a acheté des fauteuils de cinéma, par deux ou par trois, donc ça demande un peu de travail pour les employés municipaux, pour les installer et les enlever, mais on a 200 fauteuils que l'on installe, et d'ailleurs on les installe plus souvent encore, puisque maintenant il y a des manifestations qui nous demandent, des associations qui nous demandent de les installer quand ils font, par exemple, des spectacles de danse ou autre. Voilà. Et ça a été extrêmement significatif, puisque dès la première soirée de ce type, on a vu dans la salle des personnes, et notamment des personnes âgées, qui n'étaient jamais sorties de chez elles, sauf pour les lotos, justement. Voilà. Mais pour rien d'autre. Et maintenant, qui viennent tous les mois, c'est leur sortie de spectacle. Et avec une régularité incroyable. Enfin, toujours dans le même état d'esprit, nous avons la chance à Agen d'avoir une des 11 écoles nationales de théâtre avec Pierre Debauche. Et Pierre Debauche a créé donc, le Théâtre École d'Aquitaine. Et nous accueillons régulièrement donc, les élèves de Pierre Debauche qui viennent présenter des spectacles. Mais là, c'est un travail qui, aujourd'hui, n'a pas encore porté beaucoup de fruits. On est plutôt entre 20 et 25 personnes dans la salle. On était à la deuxième expérience, mais j'espère que dans 2-3 ans, il y aura un peu plus de monde, parce que les jeunes en question, ben voilà, bien sûr, ils sont en formation, mais ils sont en formation professionnelle avec un des grands créateurs du théâtre en France. Voilà.
Merci. Oui, Pierre Debauche avait créé aussi le Théâtre des Amandiers, si j'ai bien compris. Et donc, là encore, quelqu'un qui vient de la ville et qui retourne... Enfin, Agen, c'est pas le rural, c'est une petite ville. Mais enfin, j'étais aussi à l'université là-bas. Et il a généré des personnes qui, derrière lui, prennent le relais, réalisent, développent des écoles. Nous, sur le Poitou-Charentes, senior avec le Centre national des arts de la rue, avec qui on peut travailler plus facilement, peut-être, qui était à Cognac avant et qui est maintenant sur Niort, pour avoir des gens de proximité. Alors, qu'est-ce que ça vous suggère comme question à poser à nos élus présents, nos maires, sur leur expérience pour dynamiser les territoires d'une façon créative et redonner du sens à ces populations qui ne sont pas toujours de ce territoire, mais qui ont envie de vivre à la limite ce que certains ont vécu déjà en ville ou peuvent le faire plus facilement en ville que dans nos territoires. Oui ? Vous vous présentez ?
Oui. Oui. Je travaille à la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, donc ça me déconcentrait du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture. Et ce que je voudrais poser comme question, c'est de quelle manière les élus qui sont ici pensent que les services de l'État peuvent les aider dans leur démarche créative, si c'est possible.
C'est une question piège ?
Je veux bien répondre à cette question parce que...
Vous pouvez la reformuler en même temps parce qu'elle n'avait pas le micro, tout le monde a peut-être entendu.
Peut-être reposer bien votre question alors sur la DT.
Donc est-ce que vous pensez que les services de l'État peuvent aider les collectivités dans leur démarche créative et de quelle manière ?
Voilà, moi je veux bien répondre parce que donc ce qu'on appelle le PTE, aujourd'hui un pôle territorial de l'équipement, nous en avons un proximité donc sur Parthenay, et nous il a eu un rôle important. Je dirais, dans notre démarche de requalification urbaine. Il se trouve que notre démarche innovante, si on peut dire, les intéressait beaucoup. Et ils ont été partenaires. Mon collègue Jean a cité le CAUE, hein, qui ont été, donc c'est important. Le Pays de Gâtine, hein, le chargé de mission du Pays de Gâtine. Le département aussi, hein, son chargé de mission. Mais moi, je rajoute le pôle territorial de l'équipement, qui aujourd'hui la DDT. Donc a été un partenaire important à nos côtés, notamment pour élaborer le cahier des charges de l'étude de requalification urbaine. Et il nous a aidés dans notre... parce que, si vous voulez, notre bouleversement était tel que nous ne savions pas par quel bout prendre ce dossier. Alors, il y avait plein d'études, hein, qui avaient été faites, bien évidemment. Vous pensez, la déviation, il y a des études d'impact, on a des tas de dossiers, des tas de choses. Notamment, on a eu en plus, nous, une révision de notre plan d'urbanisme. On a eu une extension de notre carrière à côté, quand on sait ce que c'est qu'avoir une carrière à 400 mètres, enfin nous, à proximité du village, et l'impact que ça procure. Et donc, on a eu aussi cette enquête publique de l'extension de carrière. Donc, on a eu beaucoup de choses, une foison d'événements qui nous arrivaient, qui nous tombaient dessus, et on ne savait pas par quel bout le prendre. Et pour répondre à votre question, je suis très objective. La DDT nous a beaucoup aidés avec les partenaires que j'ai cités pour y voir plus clair et en tout cas était très intéressée sur le côté innovant d'y adjoindre justement des partenaires culturels ou d'art de la rue, et donc était très très intéressée par cette expérience. Et moi l'expérience là-dessus, et je pourrais citer dans le département Christine Berthomé, département donc des Deux-Sèvres, qui a été un élément important. Voilà, je réponds à votre question.
Merci. Il faut dire que dans le contexte aujourd'hui, la data relance les grandes métropoles, enfin les aires urbaines. La Rochelle, Niort, Rochefort essayent de dire ben, nous, on est aussi une grande métropole, aire urbaine, complémentaire entre les services d'un côté, la mer, les activités. On va essayer de définir ça. Ça va faire à peu près 300 000, 400 000 habitants. Enfin, donc, on va jouer dans la cour des grands.
Et alors Stéphane Cordobès, qui est le responsable à la DATAR sur Prospective 2040, moi je lui dis tout le temps, mais les petites villes, tu t'en occupes là, le monde, là où les gens vivent, enfin c'est quand même 2/3 de la population, enfin il ne faut pas l'oublier, bien sûr, il y a les grandes villes, mais il y a les autres enfin, qui sont... Et non, bah, ils peuvent pas s'imaginer ce que c'est. Ils viennent pas, ils font tout de Paris, enfin, et, alors qu'ils sont très ouverts, hein, je veux dire, intellectuellement, il n'y a pas de problème. Mais c'est difficile de passer au stade de la dynamique de vos petites villes.
Oui, parce qu'il est évident que nos petites communes, nous n'avions pas les moyens de nous payer effectivement un cabinet d'ingénierie comme font, comme vous le dites, Monsieur Maignan, comme font les grandes villes. Et donc, nos partenaires, là, ont vraiment joué le jeu avec nous et ont écrit à 4 mains, à 6 mains, nous ont aidés à écrire ce cahier des charges sur cette démarche. Il faut dire que nous étions peut-être dans l'air du temps, une démarche globale de développement durable, hein, avec les Grenelles de l'environnement, etc. Nous étions vraiment dans cette approche environnementale et démarche globale. Et donc voilà, peut-être les raisons pour lesquelles nous avons été aidés.
Bien.
Humainement parlant.
Non, pour ce qui est de Villeréal, sur ce sujet-là, il n'y a pas eu de demande d'aide du côté de l'État. Pour le moment, on développe ce projet de festival de la Villeréal avec le Conseil général qui a commencé doucement et le Conseil régional qui a commencé encore plus doucement. Donc on verra plus tard si besoin est, puisque par ailleurs, par exemple sur le Festival du film de Sarlat dont je m'occupe, oui, on a des rapports avec l'État via la DRAC, mais pour ce qui est de Villeréal, pas encore. Dans d'autres domaines, oui, économiques, mais pas pour ce sujet-là.
Merci. Autre question ? Oui. Et puis après, on passera à la deuxième table ronde.
Bonjour, Christine Lifoc, je suis universitaire à Lille. J'aurais voulu que vous nous reprécisiez un peu, même si j'ai déjà un peu une idée de la réponse, mais d'après ce que vous venez de dire. Parce que finalement, quand je vous ai entendu, j'ai entendu parler de festivals, de résidences d'artistes, de régénération urbaine par la culture à travers les friches, chose par ailleurs dont on parle depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai des cours avec mes étudiants sur ces questions-là, et pourtant on ne parlait pas de créativité pour autant. Donc, qu'est-ce qui peut changer ? Qu'est-ce que la notion de créativité ou l'approche par la créativité a pu, dans vos différentes expériences, j'allais dire du type avant-après, avant quand je faisais de la culture sans forcément parler de créativité, ou quand je faisais de la régénération ou de l'aménagement urbain, etc. Qu'est-ce que cette notion de créativité apporte vraiment de différent par rapport à ce qu'on faisait depuis longtemps ?
Je vais apporter peut-être un élément de réponse. Moi, je pense qu'au niveau de notre département, on a notre CAUE et notamment le directeur Roland Counil qui nous a, on va dire, qui a eu une approche déjà dans ce sens-là. Et moi, je dirais fondamentalement ce qui a changé et, pour nos communes, c'est que nous puissions inclure dans les équipes d'ingénierie pour nos codes de marché public, que nous puissions inclure des collectifs, des associations, des cabinets pour travailler avec les cabinets d'architectes classiques, on va dire. C'est d'avoir pu, enfin, et je pense qu'il a changé fondamentalement, c'est toujours un problème d'argent, c'est-à-dire que enfin, ce qui est plus compliqué, c'est d'adjoindre par rapport à un marché public d'un aménagement, on va dire. On peut bien évidemment adjoindre à côté un cabinet qui va fonctionner indépendamment ou en amont ou en aval. Ça, c'est possible. Mais moi, ce que je dirais, c'est d'avoir pu intégrer cette idée de collectif, cette idée d'artiste, d'avoir pu les intégrer dans nos codes de marché, c'est-à-dire financièrement d'avoir un montage financier qui puisse tenir la route et de les intégrer pour qu'ils fonctionnent bien évidemment en interaction, en partenariat avec les cabinets classiques. Je ne sais pas, enfin, c'est un élément moi, que je, comme ça...
Oui, pour compléter en allant un petit peu dans ce sens-là en amont, notamment en termes de communes et de décisions d'orientation, comment la créativité peut être amené justement sur des aspects décisionnels ou en termes municipaux, notamment. Moi, je dirais que c'est parti de rencontres. Alors, on était, comme je l'ai dit, sur la partie aménagement, notamment avec une démarche qualité. On dit qu'il faut prendre en compte l'ensemble des... des concessionnaires de réseau, etc., pour bien réussir un projet d'aménagement. Ce qui a amené le plus, je pense, sur la créativité recherche, finalement, de sens aussi sur les aménagements, ça a été amené par, effectivement, cette rencontre avec des artistes scénographes sur le fait qu'il y a un univers plus décalé qui, quelquefois, nous permet de faire abstraction de ce qu'on a à gérer au quotidien dans une commune qu'on va prendre tout de suite en ligne de compte quand on fait de l'aménagement. Et cet aspect-là nous amène finalement à réfléchir. Et on est bien dans une notion de créativité qui est peut-être aussi... qui doit être collective aussi à un moment donné, mais qui est suscitée aussi par cette rencontre. Elle est avec les artistes, mais elle peut être dans le domaine scientifique, sur d'autres aspects. Mais je crois que c'est ce point important. Et je dirais que pour les élus, qu'ils soient petites communes ou autres, on est souvent le nez dans le guidon par rapport à une gestion quotidienne de plus en plus lourde. Et quand on est sur des projets et qu'on veut faire un peu de prospective et justement sortir un peu la tête du guidon, eh bien, je pense que cet aspect-là nous permet, entre guillemets, d'être plus créatifs à notre niveau sur des propositions, que ce soit auprès de la population, sur des formes. Alors, on a parlé de festivals, mais au-delà des festivals, effectivement, il y a des rencontres qui se mettent en place sur l'année. C'est quelque chose qui doit avoir du lien et du lien aussi toute l'année. Et aussi dans les propositions, je dirais, de nouvel espace public qui doivent prendre en compte les attentes de la population et puis peut-être de nouvelles façons de mobiliser la population. Moi, je dis, c'est quand même... Pour moi, c'est une interrogation là, toujours permanente sur la mobilisation de la population, sur le renouvellement. Hein, une petite commune de 420 habitants, 40% de population nouvelle en 8 ans, avec une barrière qui est moins géographique qu'on pouvait le dire avant. On pouvait dire dans le village, on se connaît, mais plus socioculturelle, justement. On est quand même sur commune faible niveau de revenus, revenu moyen des ménages très bas. Voilà, c'est pour moi, c'est un enjeu très, très important. Et là, il y a besoin d'innover, de créer. Et je pense qu'on peut avoir aussi des apports par ces rencontres qui sont effectivement, qui sortent un petit peu de ce qu'on avait peut-être l'habitude de mettre en place au niveau des collectivités quand on réfléchissait sur de la prospective, justement.
Bien. Merci. C'est peut-être pas la réponse. Oui,
oui, juste simplement pour dire que quand j'ai cité différents exemples tout à l'heure, il y a l'animation permanente de la vie collective par le biais de la culture notamment, ce qui m'importe beaucoup. Et puis le festival, qui est un moment donc éphémère, mais ce n'est pas qu'un festival. Je veux dire par là qu'il y a deux types de festivals. Il y a les festivals où on réunit des artistes qui viennent présenter des œuvres. Et là, on est dans une situation où les artistes viennent sur place pour écrire ces œuvres sur place, les jouer donc dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle habituels, et en mêlant la population de la même façon qu'on la mêle aussi à des artistes lorsqu'on fait l'aménagement de Land Art. Et c'est une activité durable qui n'est pas éphémère, puisque lundi prochain, là, lundi soir, on a la première réunion de travail pour le prochain festival avec l'association des Amis du Festival et Samuel Vitoz. Pour commencer, lui va nous dire quelles sont les pistes de travail qu'il a pour l'année prochaine en matière de création. Et on va échanger avec lui, étant entendu que c'est lui qui a la main sur le plan artistique, mais que ça l'intéresse de savoir quelle est notre réaction par rapport à ce qu'il propose. Quand il nous a proposé la mythologie des origines, on lui a demandé d'aller un peu plus loin parce qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait faire. Et puis après, on l'a aidé en lui disant, tiens, il faudrait que tu ailles rencontrer telle personne qui a des connaissances particulières, etc. Enfin voilà, ça s'est mis en place. Donc c'est vrai que c'est un... Il y a une offre culturelle, par exemple, chez les Crans, ça fait une partie de l'offre, ou le Théâtre National, le Théâtre d'Aquitaine, mais il y a autre chose qui fait que là, la population n'est pas simplement spectatrice, elle est un peu acteur aussi.
Oui, il y a une co-construction du festival, enfin, même si c'est un festival, avec les populations locales, puisque vous avez cette association des amis, puisque vous-même à Bouillé aussi vous le faites, et puis vous-même à Mazières. C'est un petit peu différent, c'est pour ça que je mettais juste le slide live, parce que pour moi, on est passé, quand on fait des festivals offres, culturel, on est dans la civilisation un petit peu de la voir, quoi. C'est-à-dire, on va voir, c'est là, on paye le spectacle, etc. Jusque-là, c'est tout à fait différent. Vous êtes plutôt, enfin, moi, j'ai ressenti, en vous connaissant un petit peu, vous êtes plutôt dans faire émerger l'être en lui-même, quoi, dans le territoire. Et c'est, oui, et c'est tout à fait nouveau.
Et effectivement, il y a aussi un travail de création faite en lien avec les artistes et aussi les participants, les bénévoles. Et ça, je pense qu'il y en a qui se sont découverts aussi. Ils ne sont pas là, je pense que dans l'organisation, ils ne sont pas là que pour les aspects matériels. Et on fait toujours un travail qui commence en septembre pour un festival qui a lieu en juillet avec un collectif d'artistes sur différentes thématiques et puis un travail avec une trentaine de personnes qui vont s'investir chacun dans leur domaine de compétences, mais suivre un petit peu cette ligne. Et c'est vrai que là, on est dans, enfin pour moi, on est dans la créativité vis-à-vis de ces personnes qui ne sont pas des professionnels. Il y a quand même une ligne artistique parce qu'il faut quand même avoir aussi, quand je dis produire du sens, et c'est là où intervient quand même l'expertise culturelle ou artistique dans ce domaine-là, mais avec la prise en compte des capacités à créer pour chaque habitant ou chaque personne qui s'y implique.
Voilà. On est obligé un petit peu de passer à la table ronde suivante. Vous posez la question.
Il y a temps, sinon.
Allez-y, posez votre question, puis je ne sais pas si on pourra y répondre. Mais donnez votre commentaire, oui.
Nadia Bigre, je viens de faire une reprise d'études, donc j'ai eu un master 2 là récemment, développement du territoire, et donc je continue à m'intéresser au développement des territoires infrarégionaux. Et donc je voudrais rebondir un peu sur, je ne sais plus qui d'ailleurs a parlé de rupture sociale et de l'accès des populations fragilisées, entre guillemets, à la culture, à une sorte d'auto-interdiction d'accès à cette culture. Et je voulais savoir si dans le temps, il y a eu une évolution justement au niveau de la participation des personnes en fragilité ou socialement, on va dire. Moins apte à entrer dans une démarche de participation. Voilà.
J'ai pas assez de recul par rapport à ça.
Moi, je veux bien en parler parce que c'est une préoccupation. Je lui ai dit que c'était une préoccupation finalement de. C'est pour ça que dans l'événement du festival, c'est pas de la diffusion de la consommation, c'est effectivement un travail en amont. Et mon questionnement perpétuel, c'est effectivement de mobiliser toute la population. Et quand je disais tout à l'heure de festival hors sol, ça peut l'être aussi au niveau de la participation, de retrouver ceux qui finalement vont aussi s'y retrouver par rapport à ce qu'ils font déjà, par rapport à leur profession, etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même une diversité, toucher une population peut-être moins accessible, qui aura moins accès au départ. Et je pense qu'il y a, c'est là où ça s'accompagne d'un travail de terrain aussi, de proximité, de recréer de la proximité aussi. Avec les, je parle à l'échelle des nouveaux habitants sur une commune. Et c'est un effort qui doit être quotidien pour éviter effectivement qu'on retrouve dans ceux qui se mobilisent ce qu'on peut avoir dans un festival uniforme au niveau des participants. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller en permanence, parce que c'est ce qui fait l'intérêt de cette démarche-là, c'est qu'elle est bien aussi, entre guillemets, toute la palette qu'on peut trouver sur un territoire et permettre aussi à les personnes qui ont moins d'accès à ces démarches-là y participer. Alors là, du coup, on peut créer, innover de différentes formes. On en avait discuté aussi avec le collectif ici même sur la façon d'opérer, sur des systèmes de mots qui passent dans les boîtes à lettres, etc. Enfin, il y a plein de, au-delà bien sûr de la réunion publique où tout le monde est invité pour s'asseoir et assister à une présentation.
Merci, un dernier mot.
Oui, honnêtement, donc, dans l'association des amis du festival, là on a une représentation, non pas proportionnelle, mais on a des personnes vraiment venues d'horizons différents et des gens qui n'étaient pas des, entre guillemets, consommateurs de culture permanents. Bon, pour ce qui est de ceux qui viennent voir les spectacles, c'est variable parce qu'en fait, il y a des obstacles idiots, hein, mais par exemple,
les spectacles qui se tenaient dans la forêt, bon, il fallait marcher pendant 10 minutes pour y arriver. Donc il y avait des gens, malheureusement, personnes âgées, qui ne pouvaient pas y aller. Le spectacle au bord de l'eau, il fallait monter sur des bottes de paille, puisque c'était des bottes de paille qui faisaient office de gradin. Bon, c'est pareil, donc il y a des gens qui... Alors, il y en a certains qui sont assis par terre, mais enfin, ça, c'était un petit peu une difficulté. Et puis il y a la difficulté par rapport au contenu. C'est-à-dire, c'est vrai que... l'année dernière, bon, ben, quand on dit on va en dehors de la création, il y avait aussi d'autres spectacles. Quand il y avait Shakespeare, bon, ben voilà, il y a des gens qui peuvent se dire et qui se disent, pardon, ah ben non, Shakespeare, moi je peux pas y aller parce que je vais pas comprendre. Hein, voilà. Donc là, c'est une démarche de travail pour que petit à petit les gens qui se disent cela, eh bien, ose faire le premier pas pour... Alors, c'est un peu plus facile dans la mesure où on n'est pas dans des salles de spectacle fermées, parce qu'il y a des gens qui étaient un peu aux abords. Donc, le spectacle avait lieu sous la halle, mais on n'avait pas mis des barricades autour. Hein. Donc, il y avait des gens qui étaient au café, à côté. Donc, ils ont suivi quand même un peu le spectacle. Voilà. Il y avait quelque chose qui bougeait un petit peu de cette façon-là. Le café philo, ça se passait au PMU. Donc, il y avait des gens qui jouaient... au PMU, mais en même temps, ils écoutaient le philo. Et ils ne sont pas partis, ils sont restés. Voilà.
Voilà. Bien, merci. Nous allons passer à la table ronde suivante. Madame Fortuné, il y avait encore des choses à dire, mais là, je continue que l'heure passe. Alors, monsieur, la table suivante, là, c'était plutôt sur la gouvernance avec l'animation, la population, et ce n'est pas fini sur ces problèmes de public en difficulté. Et là, on va passer plutôt à comment on rend un territoire plus attractif, et parfois avec des équipements, parfois sans équipement. Donc, monsieur Luna, qui vient de Chartres et de Dourdan, donc d'une commune qui s'appelle Aune. Monsieur Joseph Joubert, qui est de Lezay, donc qui a développé aussi pas mal de choses en éco-développement, éco-habitat. Et monsieur Traîneau, qui a développé le centre culturel 27, c'est le 27 jour du mois où il y a la grande foire à Royac. Et puis madame Olliard, bien sûr, avec la cité des tanneurs. Alors. Vous allez tordre un petit peu la tête parce qu'il y a quelques transparents.
Et le chauffage chez eux.
Oui, oui.
Ou alors c'est le...
Bien. Donc là, nous passons sur une dimension plutôt attractivité. Comment les territoires, les petites villes restent attractives pour leur population, pour d'autres populations et leur propre population. Comment on donne du sens dans le territoire. Et... comme monsieur Slikuna est aussi conseil et consultant en marketing territorial, il nous a préparé quelques transparents qui ne sont pas trop pédagogiques, mais enfin avec quelques schémas. Quoi. Allez, je vous en prie, allez-y.
Alors, bonjour à tous, merci à monsieur Deneuil de son invitation, monsieur Lemaignan, et à tous de votre accueil. Ça fait du bien de venir en province, voir un peu comment ça se passe dans les territoires. Et je suis très, très heureux d'être là aujourd'hui. Alors, sans être pédagogique, je vais essayer d'être rapide. En plus, on va vous donner 20 minutes, donc en plus, comme le temps tourne, ça va être assez rapide. Donc, je vous ai pris l'exemple meilleur qui soit pour moi, bien sûr, c'est la commune, puisque c'est là où j'ai essayé d'appliquer mes théories pratiques, passer de la théorie à la pratique, et donc ma petite ville d'Auneau. Donc, effectivement, avec des résultats qui ont été surprenants, on n'y voyait pas quelque chose de prétentieux dans le mot, mais c'est vrai que c'était relativement surprenant pour une ville de 4200 habitants, avec une évolution relativement importante depuis 2003. Notamment donc, par une implantation économique. J'en reviendrai éventuellement tout à l'heure rapidement là-dessus. Donc le groupe Andros, qu'on connaît bien dans le Lot, puisqu'il est implanté historiquement dans le Lot, donc groupe agroalimentaire, un des premiers groupes agroalimentaires européens, et qui s'installe sur la commune pour faire notamment du yaourt et des produits frais en lacté. Le redéploiement d'une ZAC économique de 30 hectares en 2004, et puis la construction d'une déviation. Alors on a parlé tout à l'heure de déviation. Effectivement, on va en parler parce que c'est aussi un des problèmes que nous avons eu à régler. Et la création d'un centre socioculturel sur 1500 m² en centre-ville. Alors moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est simplement essayer, on va parler tout à l'heure de la commune, bien sûr, face aux problématiques, et c'est un peu, à l'instar de mes collègues, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression, en fait, d'être en famille, c'est-à-dire qu'on a chaque fois à peu près les mêmes problématiques, il faut exister, il faut être attractif, il faut aussi revenir sur les notions de bien-être, de vivre ensemble, en conjuguant, en fait, les problèmes qui nous sont posés, dans un temps qui est hyper rapide, puisque le mandat, finalement, c'est 6 ans, sauf sur ceux qui ont le bonheur, effectivement, d'en avoir derrière, pour autant qu'ils aient l'énergie de le faire, parce que c'est relativement compliqué. Et ça, c'est forcément extrêmement compliqué. Mais vous allez voir que pour notre ville, on a à peu près cumulé les problèmes qu'on a pu rencontrer par ailleurs. Donc pour moi, c'est d'abord, effectivement, l'utilisation des techniques de marketing territorial, donc prise de conscience de son environnement spécifique, pour faire de la prospective et pouvoir, effectivement, travailler sur quelque chose qui va être fluctuant en matière d'environnement par cette prospective et cette innovation. Donc, d'où un caractère effectivement créatif et qui admet effectivement une forme d'attractivité. Alors, attractivité, ça ne veut pas nécessairement dire faire venir d'autres populations hein, ou des populations qui seraient migrantes. C'est notre cas. Le canton subit 50% de renouvellement de la population tous les 10 ans. Donc là, on est suffisamment attractif, mais on est tellement attractif qu'on est catégorisé comme étant territoire dortoir. Donc le problème, ce n'est pas nécessairement l'attractivité. C'est être attractif, c'est aussi être fier de son territoire. C'est aussi se réapproprier aussi son lieu de vie. Hein, c'est aussi ça. Et se dégager une image. C'est pas nécessairement vouloir recréer du numérique derrière en matière d'attractivité. Pour ça, effectivement, donc je l'ai dit, donc la collectivité se trouve face à un problème environnemental important qui va créer de la mouvance et de l'accélération. Et face à ça, il faut avoir des forces opposées. Alors forcément, l'environnement, il peut être plus ou moins contrôlable. Hein, je ne vais pas faire de théorie là-dessus. Notamment, si c'est géographique, il est peu contrôlable. Par contre, au niveau environnemental, il sera environnemental au sens développement durable, il va être contrôlable. Et bien sûr, il va falloir essayer de travailler avec ça. Donc pour la commune d'Auneau, c'est une commune qui se trouve, donc vous voyez la grosse région parisienne, donc énorme en matière d'habitation, la région centre qui vient border ces territoires franciliens, la ville de Chartres qui est beaucoup plus petite que Poitiers, 40 000 habitants, et donc il se trouve esselé au niveau de ce territoire très vaste qui correspond à la région centre. On n'est pas très loin de Châteauroux, donc ici Châteauroux, on est en région centre, vous voyez. Donc un vaste territoire, et en même temps, une pression, la région parisienne très importante, et nous trouvons pile à quelques kilomètres, en fait, des Yvelines, dans cette notion territoriale qu'on appelle les franges franciliennes. Alors les franges, vous savez, c'est le bout de tissu, et ça définit bien le territoire, c'est en fait, on a un bout de tissu, c'est-à-dire on est un bout de quelque chose, et aux antipodes de quelque chose. Donc en fait, on n'appartient à rien sur un territoire de passage. Donc quand on va en Bretagne, on passe effectivement... Et on ne s'arrête pas. Donc le problème, c'est des populations dortoirs et en même temps un territoire de passage où finalement il n'y a rien qui peut attirer le regard, hein, laisser passer le regard. Donc avec un trafic relativement important, là je vous ai mis le trafic qu'on avait. Alors ces trafics génèrent, on l'avait vu aussi précédemment, des problématiques de nuisance, puisque nécessairement, effectivement, on a du passage. Ce passage, vous voyez un résultat, donc c'est écrasement des réseaux. Création de trous sur la chaussée, et pour autant, on nécessitait de mettre en place une déviation. Mais on a vu tout à l'heure que la déviation pouvait, elle aussi, être créatrice de problèmes, puisqu'il y a un délaissement après des usages classiques de la ville. Une urbanisation en pétalisation qui caractérise la ville. Alors, pour moi, l'urbanisation et les finances sont deux des critères qui permettront à la ville d'être créative, très clairement. Voilà, c'est en urbanisant sa ville et en la thématisant, en la connaissant fondamentalement, qu'on pourra ultérieurement mettre en place des schémas de développement cohérents, toujours dans cette notion de bien-être, de bien vivre ensemble, surtout sur des couches de population qui sont celles qu'on connaît, c'est-à-dire des natifs et des migrants importés, dont je fais partie d'ailleurs, issus du bassin parisien. Et pourtant, en l'occurrence, c'était quand même des qualités paysagères indéniables, et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que quand on arrive, on a souvent l'impression... qu'il n'y a rien, donc on a l'impression que c'est un peu le désert. Nous, c'est la platitude, hein, excusez-moi de ce langage, mais voilà, la plus absolue. Et en même temps, il y a toujours effectivement des choses à aller chercher qu'il va falloir mettre en exergue. Donc pour ce qui concernait la commune, voilà deux phases angulaires. Hein, le triangle n'est pas anodin, c'est vraiment une pression en couteau. D'un côté, donc la pression de la région parisienne avec un risque important de typologie territoire dortoir, et puis une déstructuration sociale, on a parlé de social tout à l'heure, c'est très important. Et puis en face, eh ben, essayer de lutter en mettant en place une restructuration urbaine dynamique du territoire, une forme d'attractivité économique, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, les élus en ont parlé, mais sans recettes, on ne fait rien. Donc il faut quand même, à un moment donné, avoir ou des apports de recettes, ou au moins essayer de trouver quelque chose en matière d'attractivité économique. Elle se fait, pour moi, par rapport à la mise en valeur et protection de ce qu'on appelle les aménités, donc c'est les univers qui confèrent au bien-être, hein, ce qui peut caractériser le territoire, et donc en l'occurrence pour nous, l'univers du bien vivre, du bien manger, donc par l'agro-transformation. Voilà, on est sur un territoire plat sur lequel il n'y a pas de typologie géographique, et donc il faut faire avec ce qu'on n'a pas. Et donc, très schématiquement, donc face à ça, la mise en place de trois axes, l'innovation durable, l'innovation urbaine, l'innovation culturelle. Donc je vais vous en parler d'ailleurs après, donc toujours la même chose, donc les aménités, ça c'est la partie fil rouge de l'action, et derrière donc trois choses, donc un système pilote de traitement tertiaire des eaux résiduelles urbaines en phytoremédiation, donc on développe du durable en préservant tout ce qui est biotope local, donc on va structurer mais pas au détriment. Merci. On va structurer, mais pas au détriment de l'environnement. Hein. On est bien dans la thématique du développement durable. La structuration de l'espace par la scénarisation et la mise en place d'une agora, puisque vous avez peut-être pas vu tout à l'heure, j'étais vite, puisque le temps tourne, mais on est sur un territoire qui est un territoire de passage sur lequel il n'y a pas de structuration, bizarrement, de la ville. Généralement, la ville, c'est l'église, enfin l'église, la mairie, et puis une place. Eh bien, nous n'avons pas de place. On avait une place qui était une place, la place du château. Et la seule place que nous avions, on en a parlé tout à l'heure, c'était une place parking. Voilà. Et donc, l'idée aussi, c'est de revenir sur une place agora sur laquelle on peut échanger. Lieu de vie et d'expression. Et puis, la création d'un centre socioculturel, bien sûr, qui va permettre de développer des axes autour des espaces rencontres, d'un lieu d'échange et à vocation socioculturelle. Donc là, voilà des exemples donc, de vues. Je vais passer vite. Donc voilà, donc scénarisation de l'espace. Donc nous avions une halle dans une friche industrielle. Donc l'idée c'était de conserver la halle pour pouvoir avoir un hall d'espace et juste à côté nous avons un centre socioculturel. Pourquoi je vous montre aussi cette vue là? C'est intéressant, c'est que précédemment, avant qu'on puisse admettre des nouvelles idées, l'idée c'était on bazar dans mes parterres, on casse, d'accord? C'est moche, c'est affreux, ça tient pas debout, boum. Donc l'inverse, c'est dire, attendez, là, on est vraiment au cœur de quelque chose qui est racinaire. Si vous voulez demain recréer des projections d'avenir, d'ailleurs, vous allez voir, donc le bâtiment est très moderne dans sa facture, on garde aussi l'ancien et on bâtit sur l'ancien, c'est tout à fait clair. Et en ça, je rejoins les élus qui ont parlé, c'est-à-dire, nous, on a aussi une mission de transmission. On est totalement conscient, je pense, en tant qu'élu, de ce qui s'est passé et du bâton qu'on devra passer aux générations futures. Il y a quelque chose, effectivement, qui est lié à l'histoire du village, et notre propre histoire au milieu de ça. Et je pense que ça confère quand même une grande responsabilité. Donc, vous voyez le bâtiment juste à côté de la halle. Hein. Donc, vous voyez, la halle est là. Et donc, un bâtiment de facture très moderne, très longiligne, qui crée une rupture par rapport au bâtiment classique, donc la maison à deux toits, tuiles ou ardoises, volontariste, effectivement, pour recréer une dynamique de centre. Donc, à l'intérieur... Là, c'est le hall, ce que l'on voit à gauche. Là, la médiathèque-bibliothèque. Alors, cette médiathèque-bibliothèque, l'intérêt, ce n'est pas simplement de faire du beau, c'est aussi de faire en sorte qu'on ait des nouveaux publics. Et en l'occurrence, là, le gain était tout à fait notable, puisqu'on est, nous sommes passés de 300 lecteurs à 1800 adhérents. C'est-à-dire, on est en médiathèque, donc il y a du son, il y a de l'image, etc. Notamment avec des nouvelles couches de population. Effectivement, c'est des populations qui étaient plus fragiles. Ouais, mon grand succès, c'est effectivement de voir... les mômes de quartier, parce qu'on est une ville de 4200 habitants, donc effectivement il y a des quartiers, et qui maintenant prennent des livres, écoutent de la musique, viennent s'asseoir dans les fauteuils et prennent une revue ou discutent entre eux et ont un accès à Internet. Ça c'est vraiment une révolution urbaine importante. Et puis on y a accouplé aussi des salles de rencontre, des salles de danse en même temps. Voilà. Et puis le système pilote, c'est juste effectivement pour dire que il est essentiel pour nous aussi de créer, de bâtir, de faire du foncier, du béton, entre guillemets, mais aussi en ayant un système de traitement qui puisse être intéressant en durabilité. Voilà. Après, si vous voulez, je pourrais revenir moi sur la notion d'attractivité, mais je veux peut-être laisser la parole à mes collègues, et puis après on reviendra peut-être si on a un peu le temps sur l'attractivité.
Merci. Oh, bah,
Je ne sais pas. Bon. J'ai aussi un pouvoir.
Ah, vous avez un pouvoir, alors, attendez. Oui.
J'ai pas de PowerPoint, mais j'ai des photos. Je vous montrerai des images.
Non, mais allez-y.
Tout le monde a des photos, c'est bien.
Ah ben, on progresse.
Oui, oui, ben je vais essayer d'être rapide. Le poste de travail, non. Il est où?
Non, juste avant. Là, à droite, à droite. Là, ici. Voilà. Allez-y. En dessous, en dessous. Voilà.
Comme ce n'est pas du tout le même système que moi, où est-ce qu'on est? Là, ici, sur le terrain. Voilà, ça devrait être bon. Bien. Merci de m'avoir laissé ça. Donc, Lavousseau, alors, monsieur Le Meignan a aussi abîmé le... Oui, oui, non, mais là, c'est pareil. A aussi abîmé le nom de Lavousseau. Il a écrit le Vassau, je crois, enfin. Bon, donc, je rectifie, effectivement, il s'agit de Lavousseau. Donc, c'était des tanneurs. Non, non, mais il nous expliquait qu'il était dyslexique, ce qui est... Bon. Alors, l'idée est partie d'un... J'ai été élue en 2008, hein, uniquement pour... D'ailleurs, parce que je trouvais que ce village était abandonné du point de vue patrimonial, et, mais j'imaginais pas l'ampleur des tâches qui m'attendaient, d'autant plus que cette cité des tanneurs, donc, dont vous voyez une partie ici, je n'ai pas apporté évidemment toutes les photos de l'espace... cette cité des tanneurs était un projet qui était en suspens depuis 18 ans, en toute simplicité. Et les bâtiments, donc le premier travail a été évidemment de finir le travail qui n'avait pas été fait par, enfin, fini par les prédécesseurs pour des raisons diverses et variées, dont M. Deniol a suivi quelques épisodes, plus ou moins dramatiques d'ailleurs. Bref, on a abouti. Simplement, je me suis dit, mais zut, ben comment c'est possible? Donc, on va faire comme ça, là. Ce sera plus simple. Hein. Voilà. Alors, je me suis dit, on va inaugurer le 2 avril. Donc, on avait du beau monde, effectivement. Mais vous reconnaissez de gauche à droite Ségolène Royal, la sous-préfète de Châtellerault, Raffarin, etc. Très bien. Et on, quoi? On va faire uniquement une inauguration avec quelques discours politiques. J'ai trouvé ça assez faible. Donc, je me suis dit qu'il fallait essayer de construire autre chose autour. Et donc, je suis partie de l'idée que l'outil qui avait quand même englouti au minimum, enfin, dans la phase que moi, j'ai connue, hein, c'est-à-dire depuis 2008, 1 200 000 euros, ce qui est quand même pas mal, hein, comme argent public, il me semble tout de même, effectivement, que ce soit les fonds de l'État, de la commune, de la région, enfin, bref, tous les collègues connaissent le parcours du combattant pour aller chercher ces subventions, c'est tout de même à chaque fois de l'argent public. Hein. Donc, moi, il me semble qu'une priorité est évidemment de valoriser cet outil à la fois la cité des tanneurs, mais aussi évidemment la commune tout entière pour essayer de la valoriser. Alors, donc, dans un premier temps, je me suis dit, autour de l'inauguration, on va faire un événement qu'on va appeler les rencontres des histoires de cuir, qui avait vocation à... alors, une rencontre au sens très large. Donc ça, c'est le tract qui avait été diffusé. Alors, avec, vous voyez, tous les logos habituels, hein, bien entendu, de tous les participants. Pardon ?
Tous les
financeurs, et c'est obligatoire, ce qui est normal, bien entendu. Alors, donc, un programme qui a été construit avec une idée simple, c'est-à-dire parcourir tous les usages du cuir en faisant une espèce de grand survol, en quelque sorte. Donc, le premier thème, c'était le support de l'écrit et la parure du livre. Donc, on avait... Et d'associer
je vais pas faire le détail, hein, parce que bien entendu, ce serait trop long, d'associer quelques universitaires, puisque M. Le Meillant l'a dit, je suis professeur à l'université, mais émérite depuis le 1er septembre, puisque je suis en retraite, enfin. Effectivement, quelques collègues universitaires, des chefs d'entreprise, locaux ou nationaux, puisque nous avions quand même, effectivement, notamment le directeur général de Hermès, un chef d'entreprise local que les gens des Deux-Sèvres connaissent bien, puisqu'il est à Niort, des entreprises, donc des chefs d'entreprise locaux, des universitaires, un aspect donc, si vous voulez, à la fois scientifique et en même temps qui devait permettre de comprendre qu'on est dans une filière particulière, puisque cette cité des tanneurs a une identité qui est liée bien sûr à l'histoire du cuir, mais aussi à l'activité du cuir, puisque cette tannerie est une des dernières en France à être encore en activité. Il n'en reste plus que 4. 3 vont fermer, faute de combattants, si j'ose dire. En tout cas, les personnes qui les tiennent sont 3 personnes très âgées qui ne reprendront pas l'activité. Tannerie artisanale, donc on va probablement être très rapidement la dernière en France. J'insiste, tannerie artisanale, parce qu'il y a bien entendu des tanneries industrielles dans beaucoup de régions françaises, mais qui n'ont rien à voir avec le travail qui est ici. Et donc, une tradition qui est identifiée depuis le XIIe siècle, je dis minimum parce qu'effectivement, elle est nécessairement antérieure, mais nous en avons des preuves dans les archives départementales de Poitiers depuis 1192, ce qui est quand même pas mal, bien entendu. Donc pratiquement un millénaire, si vous voulez, enfin en tout cas 9 siècles d'histoire du cuir, ça justifie évidemment le fait d'entourer en quelque sorte ce thème d'un certain nombre d'interventions qui permettent effectivement d'évoquer les choses. Alors donc cuir, support de l'écrit, parole de livre, cuir et musique avec, nous avions donc des percussionnistes de l'orchestre des Champs-Élysées, le protecteur du corps, c'était Henri Lag, mais aussi la maison Weston qui n'est pas très loin d'ici, hein, puisqu'ils sont à Limoges, et nous avions chaque fois les directeurs hein, des entreprises, cuir et maroquinerie. Alors je reviens paradoxalement, parce que c'était le revers du tract, cuir et décoration avec le directeur du Vivier, et puis un créateur contemporain tout à fait extraordinaire qui s'appelle François Zambourg, que quelques-uns d'entre vous peut-être connaissent, qui est un créateur qui a des idées absolument extraordinaires pour utiliser le cuir dans toute la création du mobilier contemporain, mais aussi entouré de cuir un appareil radio des années 50. Bref, quelqu'un d'extrêmement inventif et créateur. Et puis aussi cuir et sport avec la fauconnerie, puisque le cuir, on le retrouve dans beaucoup de lieux. Donc voilà, les choses se sont passées. Donc ça permettait, effectivement, vous comprenez, avec ces 3 jours d'animation. Donc le samedi matin étant consacré exclusivement, bien sûr, à l'inauguration officielle. Et nous avions 3 jours d'activité. On a eu, j'ai pas eu le temps de faire une très très bonne campagne de communication, parce que tout simplement les choses se sont improvisées un petit peu trop tardivement, mais on a eu quand même plus de 300 personnes par exemple le samedi après-midi, où effectivement quand vous mettez à l'affiche Hermès, etc., bien entendu ça attire du monde, mais ça n'a pas attiré que des personnes extérieures à la commune. Comme tout à l'heure un intervenant le disait, les gens sont sortis, des gens qui n'étaient jamais sortis, qui n'avaient jamais assisté aux réunions publiques que je fais 2 fois par an, qui sont venus, qui sont sortis, qui ont assisté, qui ont écouté toutes les conférences. Encore une fois, des conférences qui étaient pratiques, des conférences qui étaient scientifiquement, enfin du point de vue, en tout cas du contenu universitaire tout à fait correct. Et donc il y a eu vraiment une excellente participation, donc on continue, hein, bien entendu. Donc en mars 2012, il y en aura d'autres, et cette fois-ci, je vais resserrer le thème, c'est-à-dire parcourir la filière en partant des origines, c'est-à-dire évidemment de l'animal au cuir, avec... Je n'ai pas le temps, sauf si vous le souhaitez, je pourrais vous donner le détail déjà du programme qui est construit. De l'animal vivant à la chasse, il s'agit effectivement d'évoquer le lien qui existe entre le cuir, l'animal et l'homme, et de comprendre que depuis la préhistoire, et donc on commencera tout simplement par la préhistoire avec Michel Brunet ou Roberto Macchiarelli que je vais inviter pour essayer d'évoquer effectivement le lien très étroit qui n'est pas seulement biologique mais aussi dans les rapports plus ou moins conflictuels entre l'homme et l'animal, en sachant effectivement que quand l'homme s'affronte à l'animal, c'est parfois pour s'en débarrasser, bien entendu, parce qu'il devient dangereux, mais c'est aussi pour l'utiliser au maximum, c'est-à-dire utiliser la totalité de l'animal. La carcasse pour se nourrir, les cornes pour différents usages qu'on aura le temps de développer, les sabots, etc. C'est-à-dire qu'on ne perd rien, et évidemment, surtout pas la peau, puisque je ferai venir aussi Jean Guilaine, qui est un préhistorien, qui nous parlera de Hotsi, vous savez, cette espèce de petit personnage congelé qui date qui a 6000 ans et qu'on a retrouvé intact dans un glacier d'Autriche et qui a l'avantage, en ayant été momifié, congelé par le froid, qui cryogénisé, disent les spécialistes, d'avoir conservé la totalité de son équipement, sa peau, ses vêtements, son carquois, etc. Alors, en dehors des aspects biologiques qui permettent de savoir de quoi il est mort, de comment il se nourrissait, quelle pathologie il avait, etc., on a surtout, par rapport au thème qui m'intéresse, bien entendu, hein, c'est d'avoir le détail de toutes les peaux qu'il a sur le corps. Il a 4 peaux d'animaux différents. 4 peaux différentes. Donc le bonnet est en peau d'ours, la pelisse est en peau de bison ou de mammouth. Enfin bon, là je me souviens plus très très bien effectivement le détail. Chaque vêtement est adapté. Les chaussons sont en cuir, également remplis de foin qui est là intact. Vous imaginez ce que ça représente. Donc voilà. C'est l'idée, et vous le comprenez, d'évoquer le lien entre l'animal et l'homme, avec, non pas pour lutter contre les antichasses, mais simplement pour essayer de mettre en perspective les rapports entre l'homme et l'animal, pour bien comprendre qu'effectivement, quand les hommes ont commencé à tuer des animaux, et maintenant pour les élever, et aussi pour les manger, c'est en même temps, c'est pas pour gaspiller ou pour simplement... L'image de la chasse plaisir, si vous voulez, elle est difficile à combattre, hein, c'est vrai. Et de ce point de vue, on va essayer d'éviter les rencontres, nous, avec les antichasses, parce que je pense que sinon, ça va être un petit peu difficile. Bref. Alors, bien sûr, ces rencontres ne sont pas le seul élément que j'essaye d'utiliser pour valoriser le site et la commune. Je mets en place des classes de patrimoine et j'ai construit une association qui est porteuse du projet, qui s'appelle Patrimoine au Poitou, avec comme sous-titre un Poitou singulier. Ça, c'est pour faire une accroche, hein, du 5e millénaire au Futuroscope. Donc, on part de Bougon, que les gens des Deux-Sèvres forcément connaissent, qui est un site absolument exceptionnel que malheureusement les Poitevins ne connaissent mal ou très peu. Hein. Donc dans le thème de l'architecture, de l'habitat, de l'aménagement du territoire, évidemment, le site de Bougon a sa place. Alors vous voyez évidemment que tout de suite, et c'est le danger qui me guette, je vous le dis parce que j'ai même une opposition à l'intérieur de mon conseil municipal, ou tout au moins des gens qui sont un peu difficiles à convaincre, que pour pouvoir valoriser le site et la commune, lui donner à la fois des ouvertures, vous voyez, sur l'extérieur, en l'insérant dans un réseau de sites d'importance à peu près équivalente. Hein. On peut construire des projets ensemble. Alors là, peut-être que je déborde par rapport au thème qui est celui de ces rencontres, là, de cet atelier, de ces discussions. Mais moi, je crois aussi fortement à cette mutualisation de petites communes qui ont des choses intéressantes à voir. Alors, on va voir. Le premier test des programmes a eu lieu la semaine dernière, hein, donc du 3 au 7 octobre. J'ai eu pendant une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, une classe qui venait de pas loin, hein, qui venait de Biard, hein, tout simplement, mais qui a permis de tester in vivo avec 24 gamins, CE2, CM1, 24 gamins, dont une handicapée, un intéressant fauteuil qui permettait de tester aussi l'accessibilité de tous les sites. Enfin, tout le monde sait à quel point, évidemment, c'est important. Et c'est effectivement important. Bon. Et les sites étaient accessibles. Ça tombe très bien. Et donc, on teste les programmes. Et puis là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, sinon je déborderai de mon temps, mais je vais simplement, vous comprendrez, évoquer le fait qu'il s'agit de valoriser donc le potentiel de communes assez proches, qui possède un patrimoine pas nécessairement, pas suffisant, vous voyez, pour apporter, pour amener des foules. Bon, quand vous avez à Curzé-sur-Vaune un musée du vitrail, qui certes est un lieu absolument extraordinaire, à lui tout seul, il a eu d'ailleurs de grosses difficultés, il a fermé, il a réouvert. On voit bien que ce sont des structures qui sont très fragiles parce qu'elles sont trop petites. Il faut les mutualiser. Alors, bon, je ne sais pas si... Excusez-moi.
Chez nous, on a une expérience, juste pour faire le parallèle. Donc, pour dire que on peut partir de rien et trouver aussi des choses intéressantes, c'est que en 65, des chasseurs ont trouvé un squelette dans ma commune. Donc, forcément, gendarmerie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, ils ont recherché, mais ils pouvaient toujours rechercher puisque le squelette datait du Mésolithique. Donc, en fait, sur la commune, il n'y avait pas d'identité liée à la paléontologie. Et globalement, effectivement, on est redescendu dessous puisque c'est l'ère médiane, donc moins 6000 à moins 3000 avant Jésus-Christ. Sauf qu'après, effectivement, en fouillant, ils se sont aperçus qu'il y avait un site qui était un site intéressant. Et depuis, donc, on a développé avec une association locale un site échelle 1, si vous voulez, pour refaire l'habitat mésolithique type. Donc, il doit y avoir trois sites comme ça en Europe. Donc, vous voyez, on peut à partir de rien faire. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, c'est que c'est aussi la période dernier chasseur, premier paysan. Donc, en fait, on passe de la forme de nomadisme cueillette de pêcheur et transition par rapport à l'ère urbaine.
Paléolithique.
Et donc là où c'est intéressant, c'est effectivement, bon, vous avez travaillé sur votre thème des tanneurs, et donc on voit bien que là aussi, donc on recrée un positionnement spécifique pour être plus dans le sens de l'image et de l'attractivité. Et donc, effectivement, nous traitons aussi, parce que cette période était une période intéressante en matière de développement durable, durabilité, c'est que là, rien de mieux que nos ancêtres pour savoir comment préserver le biotope à l'époque et donc passer à cette ère moderne.
Oui, ben alors je termine rapidement. Donc bon, voilà. Alors les sites, vous les voyez, parce que la carte Lavosseau, donc, qui est ici, évidemment le centre du monde, hein, forcément, presque comme Pougnérisson. Curzé, donc, où il y a le musée du vitrail. Sensé, où il y a des ruines romaines magnifiques. Jasneuil, qui a à la fois un patrimoine architectural, mais aussi un jardin des couleurs, c'est-à-dire le travail des plantes tinctoriales. Là, on est à Ménigoutte, Val, Mouton Village, qui... Alors, je déborde, effectivement, en plus, sur les Deux-Sèvres. Alors, vous imaginez, j'ai oublié de préciser que je suis maire de la Vosseau, mais aussi vice-président de la communauté de communes de Vouillé. Vouillé est ici, et chargé de la culture. Alors, même dans la commune mission de la culture, il est difficile de faire passer l'idée que je déborde du territoire. Et donc là, quand on est au sud de la Vosseau, on n'est plus dans la communauté de communes de Vouillé, déjà. Donc je ne suis plus sur le territoire. Et quand je vais dans le lit de Sèvres, vous imaginez, c'est quasiment un scandale. Voilà. Bon, les tumulus de Bougon sont ici, hein, vous voyez. Donc là, on a quand même une proximité géographique de différents lieux qui sont évidemment très intéressants et qui peuvent permettre, effectivement. Alors, donc je mets en place différents programmes. L'aménagement du territoire, les matériaux de l'artisanat, la transmission des savoirs, l'architecture en Poitou. La Vosseau, ça c'est un thème qui m'a été demandé, mais je ne suis pas sûre de le faire. La révolution des transports, ça c'est beaucoup plus intéressant et facile à mettre en œuvre. La vie quotidienne, ce n'est pas forcément celui que je préfère, etc. Et donc, je proposerai aussi à d'autres publics, c'est-à-dire les publics scolaires sont les premiers visés, mais ensuite on continuera. Voilà. Alors... Les pistes à suivre, c'est évidemment, enfin j'en ai d'autres, hein, des idées pour la valorisation du patrimoine, c'est la réhabilitation de la commanderie qui avait brûlé quelques semaines après mon élection, la mise en scène des espaces liés à la commanderie. Cette commanderie est une commanderie magnifique dont on a fait déjà l'étude et qui est 12e, 15e siècle et dont seule la cheminée était classée. Et ce village qui est très ramassé autour de la commanderie, c'est tous les bâtiments qui sont liés à la commanderie ici, l'hôpital, la chapelle médiévale, ici un cimetière médiéval qu'il faudra fouiller. La tannerie, et actuellement, vous voyez, la cité des tanneurs, je vous montrais en premier, c'est cet espace-là, installé sur une maison du XVe siècle et prolongé ici avec des granges du XIXe. Donc, beaucoup de maisons médiévales de grande qualité dans le centre, il y en a aussi de ce côté-là. Donc tout un patrimoine à valoriser, bien entendu. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci. changer les choses. Ce qui m'a le plus surprise, c'est effectivement, moi j'avais imaginé, en ayant rencontré plusieurs villes qui avaient mis en place des classes de patrimoine, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas du tout en Poitou-Charentes, sauf à Rochefort, mais à Rochefort, comme ils ont un centre international de la mer qui est beaucoup plus important, leur classe de patrimoine constitue vraiment une toute petite partie de leur activité. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Et donc, moi, j'avais... Eux, ils n'ont comme clients, si j'ose dire, enfin, comme visiteurs, comme scolaires, que des classes de Paris. Et moi, j'avais imaginé que je construisais des programmes pour un public extérieur à la Vienne. Vous voyez, extérieur à la région. Pas du tout. Les premiers, les plus intéressés, c'est vrai, ce sont les gens d'ici. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent absolument pas. Alors, l'institutrice, qui est pourtant une personne extrêmement ouverte pour accepter de faire le test, c'est quelqu'un qui, manifestement, est très, très ouvert. Elle est venue, donc elle habite Biard. Biard, c'est juste à côté de Poitiers, donc entre Poitiers et La Vosseau, donc à 25 km, même pas, 20 km de La Vosseau, d'accord ? Elle ne connaissait aucun des 5 sites que nous avons visités. Aucun, d'accord ? Voilà. Et c'est vrai pour toutes les autres villes. Donc mes premiers publics, ce seront les gens du secteur. Voilà.
Non, mais c'est la grande difficulté. Cette institutrice n'était peut-être pas du Poitou-Charentes non plus.
Si.
Ah bon, parce que... le nom. Ouais. D'accord. Merci, Madame Olia. On va écouter Monsieur Joseph Schubert sur le Zé. Et donc... maintenant nous avons un PowerPoint avec
quelques images.
Quelques images. Non, parce que M. Joubert a été vice-président quand même au Conseil régional et puis souvent il jongle avec les. Il sait parler, donc il se. Mais maintenant il arrive avec des images pour nous montrer où est le Zé.
Surtout où sont les réalisations. Et aussi démontrer que les fonds publics ont été utilisés à bon escient. Merci Christian. Bonjour à tous. Joseph Joubert, je suis donc maire de Lezay, président de la communauté de communes du Lezayen. Alors, cocorico aussi, mais on est au cœur du Poitou-Charentes. Donc, si vous prenez la carte, vous allez bien voir qu'on est bien ce centre stratégique. Un canton rural, 6000 habitants, une commune chef-lieu, Lezay, 2200 habitants. Particularité que je partage avec mon voisin de droite. Non pas une foire comme lui, mais un marché hebdomadaire tous les mardis matin, très important, puisque ce marché qui un peu comme Rouillac est un marché forain d'ampleur régionale est aussi depuis le XIIe siècle, comme ma voisine sur un autre sujet, un marché aux bestiaux, hein, autrefois un marché aux petits veaux d'élevage, maintenant un marché aux bestiaux important. L'un des 3-4 plus gros marchés européens. Premier marché, premier foirail de France en 2008, deuxième en 2009, troisième en 2010, et on espère en 2011 repasser premier. On ne fait pas la guerre avec nos collègues. Une halle, ou un foirail, comme on dit dans le jargon, important, puisque c'est une surface couverte d'un hectare et demi. Hein, donc ça vous donne un peu la dimension de ce que peut être une halle pour accueillir des animaux. Voilà. Sur cette approche, on va dire, communale et intercommunale, une volonté forte depuis, on va dire, deux mandats, hein, c'est-à-dire bientôt 10 ans, c'est de s'engager sur le développement durable et les énergies renouvelables. Donc, sur une commune de 2200 habitants, aujourd'hui, nous avons une chaufferie collective au copeaux de bois d'une puissance d'1,2 MW et un réseau de chaleur de 3 400 km qui dessert 17 sites. Hein. Alors chaque site, c'est par exemple tout l'ensemble personnes âgées, c'est le collège, c'est la gendarmerie, c'est la caserne de pompiers. Chaque site est identifié de cette façon-là. Sur ces 17 sites, 14 sites publics et 3 sites privés. Et... ça, c'est pour la partie réseau de chaleur. Sur une autre orientation importante, je vais parler d'une surface importante sur ce marché, nous installons en ce moment du photovoltaïque, donc 14 000 m² de panneaux. Hein, donc c'est aussi très, très important pour notre territoire. Toujours dans le développement durable et un petit peu sur ce que nous avons sur la table, mais lorsque vous viendrez à Lozay, on ne vous mettra pas de bouteilles en plastique, mais des pichets identifiés, puisque nous distribuons dans un syndicat intercommunal une eau de source qui se situe en qualité naturelle entre Évian et Aix-les-Bains. Donc on met quelques gouttes de chlore par mesure de précaution et nous pouvons faire en sorte et dire à nos concitoyens que le litre d'eau distribué au robinet coûte 500 fois moins cher que celle qui est là et nous n'avons pas à compresser et à traiter ces bouteilles. Voilà, on a 5 parcs éoliens en gestation, toujours sous le développement durable, depuis la semaine dernière, enfin, la construction d'une usine de traitement des ordures ménagères avec un procédé ancien, mais innovant quand même, qui s'appelle le procédé Oxalor. Donc je vous invite à aller voir sur le site et vous découvrirez un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est pour le point de présentation. Sur l'approche qui m'a été demandée et qui concerne notre site que l'on appelle le site du Marais. Le site du Marais, vous avez ici un moulin à l'écran. Nous avons, entre guillemets, hérité, comme bon nombre de collègues, non pas que d'un moulin aussi bucolique que celui que vous avez là, mais à côté d'une friche industrielle. Une friche industrielle sur 2,5 hectares, qui étaient les anciennes huileries de Lozay, anciennes huileries de l'Arceau. Les seules huileries de Poitou-Charentes qui trituraient des graines de colza et de tournesol, donc une huilerie qui se situait en concurrence avec celle de Saint-Nazaire et de Bordeaux et qui a fermé il y a une dizaine d'années. Donc un site très pollué, hein, établissement classé Petit Sauvezo, donc c'est pour donner la dimension. Donc il a fallu retrousser ses manches et puis avec les services de l'État, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui s'interrogeait sur la cohabitation, ou plutôt le partenariat. On a eu un excellent partenariat avec les services qui sont aujourd'hui ceux de l'Adréal, mais qui avaient une autre appellation à l'époque. Et nous avons dépollué ce site pour faire en sorte que l'on puisse le réutiliser jusqu'à pouvoir construire et faire de l'habitat. Donc on a aujourd'hui un arrêté, et on a même un foyer de vie qui a été inauguré avant-hier. Sur cet ensemble, il y avait donc ce moulin, cette friche industrielle, une maison très ancienne qui était un ancien siège d'entreprise. Et puis nous avions des jardins et des zones humides que nous avons essayé de reprendre. Plusieurs études avaient été menées par les collectivités locales avec un certain nombre de difficultés, voire d'échecs. Hein, et il faut les citer, nous avons essayé de rebondir. Donc nous avons, avant de candidater, nous avons recruté tout d'abord un chargé de mission. Nous avons essayé d'aller chercher quelqu'un qui avait des compétences qui pouvaient correspondre avec nos idées. Donc on est allé chercher un jeune garçon, David Missan, qui sortait de l'école d'architecte de Grenoble et qui a donc pris le dossier en main. Nous avons candidaté dans le cadre de l'appel à projet national sur les pôles d'excellence ruraux. Et nous avons été labellisés. Alors ça, c'était un parcours du combattant énorme, hein, mais je n'ai pas le temps en 10 minutes de vous expliquer le parcours, mais vous pourrez éventuellement répondre à vos questions. C'est important parce que ça ouvrait un certain nombre de financements, d'une part, et ça nous a permis de réaliser ce que nous souhaitions. Sur l'approche proprement dite, avec ce que l'on connaît et que certains collègues ont développé tout à l'heure, nous avons eu l'idée d'inverser la démarche et de ne pas arriver avec un cahier des charges construit. C'est-à-dire que le recrutement du cabinet d'architectes s'est fait sur concours et sur ce qu'on appelle une démarche philosophique, une démarche d'idées. Et nous avons ensuite, avec eux, construit le cahier des charges. Et le cahier des charges, nous l'avons construit avec les futurs utilisateurs de ce site. Donc nous avions déjà un certain nombre de partenaires identifiés, plusieurs entreprises qui souhaitaient avoir des locaux pour faire de la formation, dont une entreprise qui travaillait sur l'aménagement et le domaine de l'eau. Un moulin, donc le secteur de l'eau, était assez indiqué. Un centre de loisirs qui est sur la partie haute de notre territoire et qui voulait revenir un petit peu sur cette partie de vallée pour travailler sur cette thématique aussi. Et puis plusieurs structures existantes, dont une qui aujourd'hui regroupe toutes les associations d'insertion par l'activité économique sur le sud de Sèvres, donc avec un certain nombre de volets, hein, un volet important sur le maraîchage bio, un autre volet sur ce que l'on appelle l'entretien du petit patrimoine et plus particulièrement sur l'entretien des cimetières protestants. Nous sommes sur un secteur où les cimetières protestants sont très 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 nombreux. Donc il y a une association qui a été créée dans le siège d'Étalezet, et il y avait, après un recensement important, un besoin je dirais un chantier énorme de remise en état de ces cimetières, en partenariat avec les familles, bien sûr. Et puis un troisième volet dans cette structure d'insertion qui est, après examen par notre chargé de mission qui, venant de l'université, c'est là, moi je crois aux rencontres, hein, comme tous mes collègues, ce jeune garçon qui, je ne sais pas si vous connaissez l'orientation de Grenoble, et en particulier sur tout ce qui concerne les constructions en terre, un jour me dit, on m'appelle par mon prénom, vous avez compris, il me dit: Joseph, est-ce que tu m'autorises à faire des essais, des analyses sur les terres que nous venons de sortir des excavations pour faire les fondations? Il dit bien sûr. Alors il a envoyé à Grenoble, et puis on savait que cette terre avait déjà servi de liant, comme bon nombre de villages en France, pour coller les pierres, mais qu'on pouvait peut-être faire autre chose. Et bien aujourd'hui, on est en train de voir une briqueterie sortir de terre, hein, c'est le cas de dire, mais qui fait de la brique en terre crue et de la brique stabilisée, hein, et c'est parti, hein, ça fonctionne, ils font des milliers de briques par jour maintenant. Voilà, pour les structures qui sont sur ce moulin du Marais. Donc,
c'est moi, je vous ai pris deux mains, j'ai pris la main pour vous passer.
Oui, vous faites tourner en diapo, hein, comme voilà, ça, en diapo. Ça peut tourner.
Contre, ce que je voulais, là, c'est un toit végétalisé.
Alors, on a voulu, dans ce cahier des charges que nous avons monté, nous avons voulu travailler ce qu'on appelle aujourd'hui un circuit court en construction et en éco-construction. Donc, on a poser quand même des bases très, très exigeantes, hein, savoir que, par exemple, tout ce qui était bois, vous allez le voir, hein, il y a du bois en quantité, que ce soit des bois qui soient issus de nos forêts et de nos haies, dans un rayon inférieur à 30 km. Hein. Donc c'est pas si évident que ça, parce que ces bois, il faut quand même les travailler, hein, il faut avoir les scieries qui correspondent, et il faut ensuite les transformer. Lorsque l'on dit, on va mettre des parquets chênes, par exemple, posés à l'ancienne, il faut que le bois soit suffisamment coupé, traité, pas traité, surtout pas traité, mais séché, hein, c'est ce que je voulais dire, séché, de façon à ne pas avoir un taux d'humidité important. Donc on a eu une entreprise qui a relevé le challenge et qui a fabriqué ces parquets. Toiture végétalisée, vous l'avez à l'écran. Alors toiture végétalisée, vous en avez maintenant dans bon nombre de structures, mais vous ne les voyez jamais. Tout à l'heure, vous allez voir un autre petit bâtiment qui est la chaufferie, qui elle aussi a une toiture végétalisée. La plupart sont remontés avec des acrotères et on ne voit pas aller. Donc, à l'architecte, dans les échanges que nous avons pu avoir avec lui, notre démarche d'élu, nous, était très simple, c'était montrer et démontrer. Faire en sorte que tout l'artisanat local, les entreprises, les PME, puissent s'approprier ces nouveaux savoir-faire. Donc, la toiture végétalisée, vous l'avez là. Hein, il suffit de mettre le pied sur le moulin du Marais, vous voyez ce qu'est une toiture végétalisée. Vous pouvez pratiquement la toucher, quoi, hein, vous rendre compte un petit peu comment elle est plantée, comment ça fonctionne. Hein, mais c'est assez exceptionnel d'avoir une pente comme celle-ci. Il a fallu travailler des retenues intérieures, donc ça a été quand même des contraintes très très particulières et des exigences auprès du cabinet architecte.
Dans la rénovation de l'espace Mendès France, ils vont faire les toits végétalisés en partie. Mais il faudra des caméras pour voir le toit.
Voilà.
Parce que les gens ne vont pas voir le toit. Et voilà. Alors ils font aussi des murs végétalisés et tout ça. Donc le Crit Horticole est à Rochefort. Je ne fais pas de publicité, mais ils font d'autres choses dans l'horticulture, des pigments d'origine végétale en particulier. Alors là, on est toujours dans la rénovation autour du moulin.
Alors, on a effectivement toutes ces anciennes pierres, vous voyez, qui étaient donc les surfaces bâties du moulin. La toiture végétalisée, elle est sur ce que nous appelons l'espace théâtre, hein, puisque les deuxièmes utilisateurs de ce site, c'est l'Union régionale des foyers ruraux, donc une union régionale qui s'adresse à la totalité de notre Poitou-Charentes, et sur le milieu rural en particulier. Une structure fédérative et régionale qui avait eu sa naissance à Lezay il y a un demi-siècle à peu près, hein, à peine 40 ans. Et puis, pour des raisons diverses, c'était parti. Ils avaient, pour leur pôle théâtre et les arts de la parole, besoin d'un certain nombre de locaux. Donc, ils se sont greffés avec l'équipe qui a construit le cahier des charges. Et donc le pôle théâtre a été construit. Alors ce pôle théâtre, c'est avant tout une salle, j'en ai parlé, mon collègue qui parlait de petite jauge, une toute petite jauge, nous, hein, parce que 40 places. Et au départ, il n'y avait même pas de spectateurs, puisque c'est une salle de création, uniquement une salle de création, hein, donc qui est là avec ses annexes. Mais bon, on a développé, et puis à certains moments, on a besoin, à la fin de la période de création, d'avoir un peu de public aussi pour se tester. Donc on a repoussé un petit peu et on arrive à mettre 60 personnes. Voilà, la troisième structure qui fait suite et qui est installée sur le site, hein, c'est une SIC, hein, donc la suite de ce que vous connaissez au niveau des SCOP, hein, donc, qui prend, on va dire, le relais et qui reprend la majorité des personnes qui ont été suivies donc, par l'association d'insertion dont je vous ai cité les trois volets et qui le développe. Voilà, donc les images défilent, vous voyez, le site est assez intéressant. On a des résultats très intéressants en matière d'insertion pour les personnels qui y sont. Un petit exemple, pour ceux qui connaissent les difficultés de l'insertion par l'activité économique de personnes qui ont, entre guillemets, décroché, le premier point, c'est de pouvoir retrouver des horaires. Hein, et ça, tous vous le diront, tous. Si nous, on se compare avec nos collègues, en une semaine, ils ont repris des horaires normaux. Pourquoi ? Parce que le site est attractif. Ils viennent par plaisir. Hein, bon, il y a un réfectoire commun, il y a le café qui se prend à l'arrivée, enfin, des petites choses. Et puis, l'autre volet utilisateur sur ce site, c'est un foyer de vie, dépendant de la DAPEI des Deux-Sèvres, hein, qui accueille les personnes en situation de handicap. Un foyer de vie qui était déjà installé sur l'Ozay avec une quinzaine de place d'accueil qui aujourd'hui s'est étendue et qui a occupé la totalité de l'ancienne huilerie, hein, enfin, des bâtiments où était l'ancienne huilerie, donc avec 22 places, inauguration avant-hier. Vous pouvez voir se dessiner déjà notre volonté, c'était aussi d'aller le plus loin possible dans la mixité sociale, faire en sorte que le réfectoire qui est juste derrière le moulin, là, hein, ça c'est la chaufferie, donc la chaufferie, si on, voilà, donc...
Après,
pas d'importance. Voilà. Donc ça, c'est le pôle théâtre. Le pôle théâtre, il est un peu sur l'eau. Hein. Donc, une volonté d'avoir une scène sur la personne qui est à droite, là, sur la photo. Juste derrière, vous avez un petit amphithéâtre sur trois niveaux qui permet d'ouvrir la baie et l'été de faire quelques prestations. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir des troupes en création qui vont pouvoir, avec le réseau des foyers ruraux et le réseau du CAPM sur notre sud des Sèvres, eh bien, irriguer et puis permettre à nos collègues, on a parlé du festival de Bouillé tout à l'heure, hein, d'avoir des troupes qui ont pu créer pas trop loin de chez nous et qui peuvent ensuite faire de la diffusion. Donc sur l'année 2011, je pense qu'on aura 16 à 17 troupes qui auront fait de la création sur cette salle-là et sur les annexes. Un réfectoire derrière, parce qu'ils ont voulu l'appeler le réfectoire, hein, ces utilisateurs qui ont baptisé les locaux. Très intéressant, hein, en termes de mixité, on va trouver des comédiens professionnels, des personnes qui sont liées aux arts de la rue ou qui sont des techniciens et qui sont donc salariés. On va trouver les administratifs des foyers ruraux, mais on va trouver aussi les animateurs, on va trouver les personnes en insertion, on va trouver des repas qui sont fournis par la cuisine centrale du foyer de vie, hein, puisqu'il y a un CAT à côté. Donc tout ça, ça se vit pas trop mal et on arrive à ce que l'on voulait quand même un petit peu, hein, savoir pouvoir partager cette démarche culturelle et cette démarche de vie au quotidien. On parle beaucoup de lien social. Bah, je crois que le lien, il faut se mettre les pieds dedans. Hein, il faut y aller quand même, hein, et il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de clôture. Alors, moi, je le disais avant-hier à l'inauguration, je crois que le meilleur symbole que l'on a pu avoir, c'est qu'il n'y a aucune clôture, hein, sur ces 4 hectares. Et le plus beau symbole, ce sont les passerelles qu'on a mis sur l'eau, hein, et qui sont les passerelles entre les hommes. Voilà. Sur la conclusion, parce que peut-être que j'accélère, nous avons en même temps travaillé dans ces circuits courts avec des produits comme le chanvre, hein, et toutes les utilisations qu'on peut connaître aujourd'hui sur le chanvre. On avait deux groupes de producteurs de chanvre sur notre territoire. Ces groupes, on les a fait travailler ensemble avec les artisans et les entreprises. Aujourd'hui, si j'accélère, ils sont arrivés à avoir mis en place une association qu'ils appellent les artisans du chanvre et qui développe donc toutes ces composantes. Vous savez qu'en Deux-Sèvres, nous avons un chef-lieu de département qui s'appelle Niort et qui est capitale au moins nationale, voire plus, de l'assurance. Donc nous avons profité de cette aubaine et nous avons fait travailler tous les chercheurs de ces grosses compagnies d'assurance hein, qui sont SMA, BTP, la MAF, hein, tous ceux que vous pouvez connaître, MAIF et autres. Et nous avons mis autour de la table. L'avantage, c'est que nous avions ce jeune chargé de mission qui était aussi là pour faire de l'animation. La volonté, c'était de faire un pôle structurant de territoire sur le sud de Sèvres, mais aussi d'aller plus loin sur des points qui sont bloquants. Je vous prends un exemple. Dans un certain nombre de nos territoires, on a par exemple des OPH, opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Et bien, lorsque le porteur de projet arrivait en disant ben, « moi, je voudrais mettre du chanvre pour faire de l'isolation » ou « je voudrais utiliser de la chaîne vote avec de la chaux pour refaire mes enduits à l'ancienne », parce qu'autrefois, ça se faisait quand même comme ça, on lui répond ben, « non, ça passe pas, vous n'aurez pas de subvention parce qu'il n'y a pas de garantie décennale ». Vous voyez comment on s'est heurté un certain nombre de choses. Donc les compagnies d'assurance ont travaillé en partenariat avec nous et on y a associé les chambres de métiers et la CAPEB. Et aujourd'hui, il y a un nouveau référentiel qui est sorti pour la mise en œuvre et il y a surtout une assurance décennale qui fonctionne. Donc ça, c'est quand même un pas énorme. C'est un exemple. On a travaillé avec les ZIP ici concernant le suivi de ces nouveaux matériaux. On a travaillé aussi avec le laboratoire de La Rochelle. Et bah on a aussi, dans l'éco-construction, essayé de développer, bon, je ne donne pas toutes les qualités de la toiture végétalisée, je pourrais vous parler aussi des murs perspirants. Le mur perspirant, c'est quoi? C'est un mur qui respire et qui fait en sorte qu'on arrête d'avoir ce que l'on entend en ce moment, des ventilations mécaniques contrôlées. Hein. On a aussi une autre approche. Voilà, toute cette démarche de matériaux. Et puis, lorsque... Je viens d'oublier Christian. Hein. Mais lorsque on s'est dit qu'on a fait ces avancées qui sont techniques, technologiques, même si on a repris des choses à l'ancienne, bon, il a fallu associer la population. Hein. Pour vous dire, sur un an et demi de travaux, on a eu, je crois que c'est 400 groupes de visites sur un an et demi. Hein. C'est énorme. Alors, je ne parle pas de réunions publiques, parce que ça, c'était un terrain permanent. Hein. Tous les jours où il y avait réunion de chantier, il y avait systématiquement, le soir, pendant 2 heures, une ouverture. Alors, bon, tout ça, on l'a construit avec les artisans et les entreprises. Et il y avait une ouverture au public. Donc, ils pouvaient avoir des réponses aux questions par le charpentier, le menuisier, l'électricien, qui, électricien depuis 25 ans, a eu des remontrances lorsqu'on a fait des tests d'infiltrométrie, par exemple, sur le terrain, parce qu'on a fait des formations in situ, a appris que s'il ne voulait pas que ce bâtiment perde ses qualités, il fallait qu'il arrête avec son tournevis de percer le pare-vapeur pour aller chercher les fils qui sont derrière. Il fallait qu'il prévoie avant de les avoir préparés. Enfin, des petits détails comme ça. Et puis, pour aller plus vite et terminer, Christian, dans les conclusions, ça a été le partenariat que nous avons eu avec l'Espace Manes France. Un partenariat très fort hein, qui s'inscrit dans la ligne de conduite et directrice qu'ils ont avec le département de Sèvres sur Terre de Sciences. Donc nous, on a voulu faire un mot que Christian adore, faire de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire essayer d'approcher notre population avec tout ce qu'on avait fait là, et puis d'aller un petit peu plus loin. Donc on a monté ce qui s'appelle peut-être un peu pompeusement aujourd'hui une université rurale ou populaire, qui en est dans sa troisième année. Première année, elle a travaillé évidemment sur le bâti, l'éco-construction, l'habitat, c'était évident. Hein, on a eu... Alors le principe avec Manes France, c'est 3 conférences par an, hein, une par trimestre, et autour de ces conférences, des ateliers qui sont animés par des locaux, si possible. Deuxième année, on a travaillé donc sur santé et nutrition. Et puis, troisième année, donc cette année, on est sur consommer autrement, donc avec un certain nombre de débats. Alors, c'est vrai que parfois, on récupère, entre guillemets, mais je crois qu'il faut le faire, entendu mes collègues, hein, on récupère un petit peu la situation. On a une foire au vin qui fonctionne assez bien. Bon, on va lancer la saison avec la foire au vin, avec un stand au milieu de la foire qui va expliquer ce qu'on va faire pour consommer autrement. Bon, on n'aura pas que du liquide. On va peut-être m'arrêter. Hein.
Merci. De toute façon, Monsieur Siculnard reprendra un peu en synthèse l'ensemble des propos.
Juste, vous avez vu des gens qui sont sur des pilotis, là, tout à l'heure, sur des allées, là. On a à l'intérieur de tout ça reconstitué, mais ça s'appelle le marais, hein, donc c'est quand même assez significatif. On avait une petite zone humide. On est, nous, sur le Leuséen, sur un fond de vallée, donc avec des zones humides répertoriées et inscrites au patrimoine du conservatoire des espaces naturels, conservatoire régional, mais ces zones qui sont répertoriées, on ne peut pas y aller puisqu'on protège. Donc nous, on a voulu, avec ces démarches en pilotis, où c'est pas complètement végétalisé et planté, parce que la végétation va revenir naturellement, hein. Les bulbes, les fritillaires pintades et autres vont ressortir, et ça permet aux personnes de ne pas aller les cueillir, mais de les voir, de voir comment ça pousse et comment ça fonctionne.
Merci. Bien, on donne la parole à Monsieur Traîneau de Rouillac. Le temps passe beaucoup, donc
j'ai bien compris. J'ai 42 secondes pour terminer. Moi, je vais aller très vite.
Michel va conclure un petit peu sur cette table ronde, et puis après, nous aurons la conclusion de la matinée.
Déjà, mon collègue de l'EZZ a un peu parlé de Rouillac. Donc, Rouillac est un chef-lieu de canton de 1800 habitants qui se trouve en plein pays du Cognac. Hein, on est en fin bois, d'ailleurs. C'est Rouillac en fin bois. Nous avons sur le territoire une grosse maison que tout le monde connaît, c'est la maison Martel, où tout le cognac Martel qui se boit dans le monde part de Rouillac. J'ai essayé de changer le nom du produit, j'ai dit, puisque ça part de Rouillac, est-ce que vous ne pourriez pas l'appeler le Rouillac? Ils m'ont dit, non, ça restera du cognac. Nous sommes au sein d'une communauté de communes de 20 communes pour 10 000 habitants, communauté de communes créée dans les toutes premières en janvier 1993. Et depuis la création, nous avons gagné 1000 habitants sur le territoire. Et très vite, les élus ont pensé qu'il fallait faire réaliser concrètement des choses qui puissent souder la population. Mais que faire? Faire une zone d'emploi dans laquelle il ne vit jamais personne. Ils ont pensé qu'on pouvait se lancer dans la culture. Alors ça avait l'air d'être un pari complètement fou. Mais ce pari a réussi puisqu'en 1997, nous avons inauguré le 27. Alors, pourquoi le 27? Comme mon collègue vous l'a dit, tous les 27, quel que soit le jour, ça peut être le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, tous les 27, il y a la foire de Rouillac. Alors, la foire de Rouillac, c'est pas du tout un foirail. Autrefois, il y avait des animaux. Aujourd'hui, il ne reste plus que les volailles. Par contre, il y a entre 350 et 500 forains qui investissent complètement Rouillac. Rouillac est fermé, on ne peut plus traverser Rouillac cette journée-là. Et donc, vous trouvez tout, absolument tout. Souvent, des collègues maires viennent me voir en disant « On avait une grosse foire, nous aussi, ça a disparu, qu'est-ce que vous faites ?» Alors, je dis surtout rien. On ne s'en occupe absolument pas. C'est complètement géré par l'association des commerçants non sédentaires. Ils nous payent une redevance pour nettoyer le village, mais on ne s'occupe absolument pas de la foire. C'est peut-être pour ça qu'elle continue. Alors, les petites foires, c'est entre 3000 et 5000 personnes, et les grosses foires, un week-end d'été où il fait beau, c'est 12 ou 15 000 personnes qui viennent à la foire de Rouillac. Au lieu d'aller au champ, ils viennent à la foire de Rouillac avec la poussette, etc. Ils viennent passer leur journée à Rouillac. Donc Rouillac était identifié par ce chiffre. Le 27, c'est la foire de Rouillac. C'est la raison pour laquelle nous avons donné ce nom-là au centre de culture, donc inauguré en 1997. Alors ce bâtiment comprend une très grande salle où on peut faire des concerts pour 2000 personnes debout ou 1000 personnes assises, avec une scène de 100 mètres carrés, un auditorium de 320 places avec une scène de 175 mètres carrés, alors bien sûr les loges, enfin tout ce qui va avec, une bibliothèque médiathèque avec 3 employés, un relais de service public qui vient d'être inauguré depuis un an, où il y a environ une quinzaine d'organismes qui viennent faire des permanences, caisses de retraite, CPAM, etc. Et une école de musique. Une école de musique qui a actuellement à peu près 160 élèves. Alors, les professeurs sont payés par le département. La commune fournit les lieux, les locaux, le matériel, mais les professeurs sont payés par le département et il doit y avoir à peu près une douzaine d'instruments enseignés sur ce site. Alors, c'est un projet qui a coûté 4 millions d'euros. Pour une commune de 1800 habitants, ça fait quand même pas mal. On a eu la chance, beaucoup ont parlé de rencontres là, on a eu la chance d'avoir sur notre territoire le DRAC de l'époque, ce qui a bien arrangé les choses. Nous avions également le patron du Lucernaire qui avait une maison de vacances à 15 km de chez nous, qui est venu donner des conseils pour éviter de faire trop de bêtises, même si dans la conception on a fait des bêtises. Les architectes, parce qu'alors en matière de culture, je crois qu'il n'y a personne qui est capable de donner des conseils. Quelque chose de très simple, la régie. Aucun technicien ne se met dans une régie. Or, on nous impose, alors je ne sais pas si c'est la DDT ou des organismes d'État, il faut une régie. Et dès que les gens arrivent dans la salle, non, pas la régie, nous on est dans le public, il faut le son et la lumière du public, il est hors de question d'aller dans la régie. Donc on vous impose des constructions qui ne servent strictement à rien. Alors ça devient du dépôt, on stocke du matériel, des choses comme ça. Mais aucun technicien ne se met dans une régie. Ou alors, il faut vraiment que la régie ait été intelligemment construite dans la salle. Mais ce n'est plus une régie, pour des normes de sécurité ou je ne sais pas quoi. Enfin, donc ça, si vous avez des idées un jour de construire, ne faites pas une régie. Voilà. Alors, ils veulent être... Alors, ils nous prennent des places dans la salle et ils mettent tout leur matériel dans la salle. La régie ne sert qu'à une chose quand il y a une poursuite. Vous savez, le projecteur, c'est tout. Nous avons aussi monté un dossier pour l'excellence rurale en matière culturelle. Le dossier a été retenu, ce qui a permis à la communauté de communes d'acheter un hôtel qui était abandonné depuis plusieurs années. Donc nous en avons fait une résidence d'artistes. Cette résidence d'artistes fonctionne en gros entre 4 et 6 mois par an, où les gens viennent là aussi créer leur spectacle. Par contre, ce n'est pas que du théâtre, c'est vraiment... C'est de la musique, c'est le spectacle de rue, c'est du théâtre, c'est du one-man show. Enfin, il y a absolument toutes les catégories. Et ils ont à leur disposition le matériel avec les techniciens qui sont mis à leur disposition par la Palaine, parce que c'est une association. La commune ne gère pas la programmation. Il y a une association qui s'appelle la Palaine, pas la baleine, comme certains disent. Alors, pourquoi la Palaine? Il y a des Charentais, là. Des vrais Charentais de souche. Savez-vous ce qu'est la Palaine? Non. Alors la Palaine, c'est l'herbe folle, sauvage, qui pousse sur nos plateaux calcaires. Et la vigne ne pousse que dans des terres qui ne sont pas riches. Donc c'est cette herbe folle qui sèche l'été et qui servait autrefois à remplir les paillasses ou à mettre dans les sabots, etc. Et il y a une connotation grivoise. Quand les gens ont de l'herbe sèche comme ça, on les dit qu'ils ont été se rouler dans la Palaine. Donc, la Palaine, ça avait une double idée aussi, c'est qu'on passait de terrain inculte, on amenait de la culture dans des terrains incultes. Voilà. Donc, ce n'est pas la baleine, c'est bien la Palaine. Voilà. Donc, l'association gère complètement la programmation. Je vous ai amené quelques guides. On a une programmation qui ressemble à celle d'une ville de 30 ou 35 000 habitants, ou peut-être plus même, parce qu'on a à peu près... On a à peu près entre 30 et 40 spectacles par an.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, alors on a parlé un petit peu recettes, je rebondis. Oui. C'est effectivement, il faut être conscient quand même que la problématique des élus, c'est toujours la recherche de financement. Je posais la question à M. le maire de Rouillat qui me disait que là, bon, il y a le phénomène associatif qui couvre. Alors, il y a des subsides des fonds publics, bien sûr, très légèrement, puisque la commune participe à hauteur de 90 000 euros.
90 000 euros, oui. La communauté de communes, 60. Mais nous avons la région, nous avons... Alors, nous avions l'État, beaucoup au début, parce qu'ils ont trouvé que c'était, au départ, que c'était une expérience originale, quand même, de monter une structure pareille dans une commune de 1800 habitants. Mais vous savez que les aides de l'État sont en gros divisées par deux tous les ans, quoi, sur ces trois dernières années. Donc on pense que ça va complètement disparaître. Par contre, la région est toujours fidèle, le pays est toujours fidèle, le département est toujours fidèle.
C'est un budget d'investissement de 4 millions d'euros. Ça, soit c'est compliqué en soi, mais ça peut se résoudre.
Nous avions à peu près 50% de subventions.
Comment ? Et de fonctionnement, 1 million d'euros de fonctionnement. Donc, vous voyez, c'est ça.
1 million d'euros, la programmation culturelle.
Alors, voilà. Donc...
Avec le personnel, oui.
Donc,
oui. Oui. Le 27 nous coûte beaucoup plus cher que ça, parce que la médiathèque, c'est 100 000 euros.
Ouais. Donc, vous voyez, donc,
Les trois personnes, les trois salaires, plus le renouvellement des collections, l'entretien, etc. La collectivité, Rouillac, doit mettre à peu près 25% de son budget dans la culture.
C'est autant pour une grande ville, une grosse métropole. Il y a un phénomène de métropolisation qui écrase. Alors, effectivement, parler de Boston, mais sans être sur des degrés tels, c'est beaucoup plus facile, effectivement, pour des villes-centres, des villes-préfectures, de gérer des tels budgets, elles peuvent l'absorber. Bon, elle a, là aussi, il y a un phénomène parallèle qui est en train de se greffer, si je peux rebondir, c'est que la réforme territoriale va impliquer aussi une forme de gouvernance, hein, il faut être absolument clair. Et justement, le fait de rationaliser la carte et d'avoir des communautés d'agglomération, on est tout de suite sur des échelles qui vont être de l'ordre de 100 000, 150 000. Donc là, la petite ville-préfecture de Chartres, chez nous, par exemple, de 40 000 habitants, va être supposée être sur un rayonnement de schéma de cohérence territoriale, c'est souvent ça, de l'ordre de 150 000. Donc tout d'un coup, 150 000, on est vraiment dans les proportions de grandes métropoles européennes. Et à partir de là, quel est le devenir des villes rurales et de la ruralité? Donc c'est vrai, il y a une vraie adéquation à mettre en place sur nos territoires qui est souvent écartée. Vous le disiez, monsieur Le Maignan, c'est-à-dire qu'on fait un peu fi de nos territoires sur lesquels deux tiers de la population existe. Et comment exister? Là, je dirais qu'il y a globalement une réponse qui est apportée. Un historique plein entier au niveau de la cité des Tanneurs, et on voit que vous rebondissez pour aller rechercher l'historique et aller plus profondément que simplement mettre en exergue la tannerie en tant que telle. On voit bien qu'il y a une... Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait partie de la méthodologie globale qu'il faut prôner. Après, structurellement, bah, deux exemples de structures, trois avec la mienne, mais on est à peu près sur les mêmes niveaux d'orientation. On n'a pas parlé du site de 4 hectares, mais j'imagine qu'il y avait quand même un investissement assez important. Vous l'avez vendu ? 3 millions d'euros. Donc 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, 6 millions d'euros chez moi. Donc vous voyez, bon. Et donc c'est important, et du fonctionnement important derrière, mais qui va recréer un nouveau mode de fonctionnement et ramener une nouvelle image, une nouvelle focale en fait sur la région, ce qui était un peu notre but à la base, hein, exister face à ces grosses métropoles, mais pas que ça, c'est aussi ramener du bien-être, du bien-vivre, du vivre ensemble. Là, c'est-à-dire le phénomène de réappropriation de son territoire, là où on doit être des marqueurs historiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faciliter en fait cette tâche-là. Alors où on y arrive, on n'y arrive pas. Il y a aussi des échecs, hein, il faut le dire. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'aspect comment ça s'appelle, cinéma. Eh bien, moi, ça a été un échec chez moi, par exemple, puisqu'il a fallu. On est sur des populations qui sont ni rurales ni urbaines. Hein, on nous appelle les rurbains, et donc ça fonctionne pas. Par exemple, voilà, on a 20 spectateurs. Donc, bon, est-ce que l'importation d'un spectacle est suffisant en soi? On parlait tout à l'heure de l'avoir. Moi, je ne crois absolument pas. Je crois que ça peut être un premier process de fonctionnement. Et derrière, il faut aller, effectivement, sur autre chose pour être sur du participatif. Et ça, c'est vraiment extrêmement compliqué. Moi, c'est mon deuxième étage derrière.
Non, et Arouillac aussi. Alors là, tout à fait tout de suite, le directeur, qui, alors j'en parlais, je ne sais pas avec qui, peut-être avec vous, qui n'est pas du tout quelqu'un de la culture, qui est un autodidacte. S'il y en a qui connaissent un peu, c'est lui qui avait créé le bateau ivre à Tours. Ivre, apparemment, était un lieu... Donc, c'est quelqu'un, fils de paysan, pas d'études particulières supérieures, et qui, la première fois qu'il est allé au cinéma, il m'a dit qu'il devait être en première ou en terminale. Il n'avait jamais été au cinéma, il n'avait jamais vu une pièce de théâtre. Et il a dit, là, j'en ai souffert. J'avais un complexe. J'ai dit, moi, je suis un paysan et on me le fait remarquer. Quoi. C'est la première fois que tu viens au cinéma. Donc il a dit, j'aurai ma revanche. Et donc il a racheté alors, un cinéma qui était fermé. Il a créé une salle et puis il a commencé à aller démarcher. Il faisait tous les festivals et puis des gens qui venaient juste pour le billet de train et la nourriture. Alors maintenant, il a un carnet d'adresses et puis les gens lui rendent bien. C'est-à-dire... ils savent que Joël Breton, bah, tu penses que je me rappelle quand j'ai débuté au bateau ivre, tu te rappelles, et puis maintenant ils font 1000 personnes quand ils viennent. Quoi. Enfin, donc, et d'entrée, il a voulu absolument inclure la population. Et je citais tout à l'heure, il a créé dès la deuxième ou troisième année un festival, les Sarabandes, parce qu'on a la chance d'avoir sur le territoire un théâtre gallo-romain. Ce n'est pas censé, il y a juste le théâtre. C'est le théâtre gallo-romain des Bouchots qui se trouve à Saint-Cybardeau, et c'est à 3 km de Rouillac. Et donc, il a dit, on fait un festival là-dedans. Donc, des têtes d'affiches dans le théâtre, mais vraiment des têtes d'affiches, M, Higelin, enfin, des gens comme ça. Et puis, des petits spectacles dans une ferme que la communauté de communes a rachetée et aussitôt restaurée, la vraie ferme charentaise avec le portail, la cour fermée avec les bâtiments agricoles, la maison de maître derrière. Et d'ailleurs, maintenant, c'est devenu un centre d'interprétation du gallo-romain qui a été créé il y a un an et demi aussi, qui a été fait dans le cadre du pôle d'excellence rurale culturelle. Et donc, il a dit, on va faire trois jambes à ce festival, des têtes d'affiches donc, dans le théâtre, des petites structures, théâtre de rue, choses comme ça, autour de la ferme. Et puis, on va faire un parcours de nuit avec les agriculteurs. On va mettre les agriculteurs dans le coup. Donc, tous les soirs, enfin, ça, c'était trois soirs de rang, il y avait 20-25 tracteurs qui arrivaient avec les remorques, des bottes de paille sur les remorques. On emmenait les gens à partir de 10h le soir pour des spectacles toute la nuit dans des lieux insolites. Donc, dans des granges, dans des carrières, des choses comme ça. Alors, c'était forcément tout illégal. Ça, je ne vous le cause pas. Heureusement que la DDT ne s'occupait pas de nous parce qu'on n'aurait pas eu le droit avec la sécurité, etc. Tout était, tout ce qu'on fait, nous, est plus ou moins illégal.
Les services de l'État sont là, donc ils vont... Voilà.
Et donc, ils réussissaient, le dernier week-end de juin, où les agriculteurs sont en pleine moisson, à avoir trois soirs de rang, 20 tracteurs, pour passer une nuit blanche, pour voir à peu près 10 ou 12 spectacles. Et les agriculteurs offraient un petit déjeuner pantagruélique à l'arrivée le matin au petit jour. Donc il a complètement réussi à intégrer le
monde. On a un autre exemple d'attractivité, parce que votre centre, ce n'est pas que pour les gens de Rouillac.
Non.
Vous êtes implanté.
Le Rouillacais, c'est 25% à peu près.
Voilà, c'est ça.
C'est un quart. Donc, et tout le reste, ça vient.
Voilà.
C'est créé, c'est effectivement. Merci.
Les 30-35 kilomètres dont vous parlez, voilà. Pour se déplacer, ils vont à Rouillac.
Oui. Oh, mais même de très loin. Il nous est arrivé d'avoir des têtes d'affiche, je ne sais pas, un bluesman américain qui faisait que deux dates en France. Les gens venaient de 300 kilomètres pour le voir.
C'est les gens qui avaient déplacé
sur le t-shirt qu'il y avait Lausanne, Londres, machin, Rouillac.
C'est pas Marseille. Oui.
Jimmy Cliff pour la Coupe du Monde 98. Alors, la Coupe du Monde 98 nous a beaucoup servi parce que donc ça a été inauguré en 97 et on avait passé une convention avec Canal Plus pour retransmettre sur grand écran et gratuitement tous les matchs de la Coupe du Monde. Donc, ça n'a pas désempli, c'est-à-dire...
Ah oui, c'est vrai.
Pendant toute la Coupe du Monde, on avait 1500 personnes dans la salle pour... Enfin, pas tous les matchs, mais... Et alors, la finale, je ne vous pose pas de la finale. C'était du délire. Donc vous avez peut-être, je ne sais pas, 10 000 personnes qui ont découvert le 27, qui n'avaient que quelques mois d'existence. Ouais. Donc, ça a permis
de démarrer.
Oui, tout à fait.
Merci. Oui.
Je voulais juste répondre aux deux personnes qui avaient posé la question. Alors, la DDT... Alors moi, je vais être le vilain mouton noir. Pour moi, la DDT et les services de l'État sont plutôt des bâtons à mettre dans les roues pour tous ceux qui veulent innover, qui veulent faire quelque chose. Nous avons un projet, pour parler de bâtiments, nous avons un projet de 8 logements sociaux BBC. On va faire gros efforts avec toit végétalisé, avec toutes les économies d'énergie, récupération d'eau. Ils sont en train de m'imposer des études sur l'eau, comme si on revenait à Noé et si ça allait tout noyer, parce que depuis le tsunami, là, alors que c'est sur un coteau. Enfin, ils nous imposent des bassins de rétention, des choses absolument impossibles. Alors, nous sommes en plus dans une zone sismique, alors je ne vous en cause pas. Nous venons de réaliser un PLU. Il a fallu 5 ans et 100 000 euros pour arriver au bout. Et encore, c'est parce que je me suis mis en colère, parce que nous avions un POS avant. Et alors, on était obligés, on avait fait trois modifications, il fallait faire un. Et c'était toujours refusé, il y avait toujours quelque chose. J'ai dit, écoutez, donc, si vous ne voulez pas de notre PLU, on va rester sur le POS et on va continuer à construire. Ils ont fini par accepter. Mais on est confronté tous les jours, et je ne vous parle pas de la santé, parce que alors, c'est pareil. Enfin, à chaque fois qu'on a une idée des élus du territoire pour défendre notre territoire, on a l'impression qu'il y a un fonctionnaire qui est là pour nous dire non, ça vous ne pouvez pas le faire, ça vous ne pouvez pas le faire.
Bien.
Alors je vais répondre pour la cohésion sociale, dont je vous ai parlé des agriculteurs. Nous aussi, nous avons un centre à d'API avec 30 adultes trisomiques qui sont en résidence, il y a un centre important. Ils sont impliqués absolument dans tout le fonctionnement du centre. C'est-à-dire, ils font des peintures, des réalisations qui sont affichées dans le centre. Ces petits programmes, pour les envoyer, ce sont eux qui vont fermer les enveloppes, qui viennent là. Le soir où les artistes sont là, ils mangent avec les artistes, parce que ça aussi, c'est presque une obligation. C'est une obligation. Les troupes qui viennent jouer, les bénévoles qui donnent un coup de main, tous ceux qui participent à la réalisation de la soirée, mange avec les artistes. Donc, il y a un très, très gros effort de fait avec, pour intégrer les populations empêchées. C'est comme ça qu'on dit maintenant, non ? C'est pas ça ? Ah ben, faut pas dire les handicapés, c'est les populations empêchées, je crois.
Merci. Merci, monsieur. Merci. Voilà.
Je vais essayer de conclure. Enfin,
donc, vous faites une petite synthèse.
Rapidement, Michel. Mais deux, trois vignettes. Simplement dire, de toute façon, on est dans un monde de plus en plus codifié, normé.
Juste avant la conclusion, je voudrais dire juste un petit mot, parce que je me rends compte que tout ce qui nous a servi de lien, là, tous les collègues, là, c'est quand même été la culture. Et une des premières troupes qui est venue chez nous, non pas en résidence, mais en spectacle, c'était le théâtre de l'Avant-Car, que certains connaissent peut-être, avec un metteur en scène, créateur de la troupe, qui s'appelle Jean-Paul Catala. Et Jean-Paul Catala m'a dit, moi, j'écoutais savamment son discours, il me dit, si l'art est nécessaire pour certains, la culture est indispensable pour tous. Voilà.
Merci.
Merci. Oui, je dirais, sur l'appel de pied par rapport au service de l'État, alors les services de l'État sont dans la conduction de leur métier, c'est vrai, mais c'est un monde de plus en plus normé, donc eux appliquent les normes. Le problématique de la créativité, c'est aussi l'inventivité, c'est aussi la folie, c'est aussi à un moment donné la gageure. C'est-à-dire vous êtes face à un problème à résoudre, et derrière, il y a un collectif qui se met en place et qui invente des choses. Alors, quand on invente, bah, forcément, on est hors cadre. Alors, tout d'un coup, on a l'impression d'être pas rattrapé. Souvent, bah, effectivement, on fait des choses qui sont des fois un peu à la limite, mais pour autant, bah, ça fonctionne. Notamment, il y a toute la spécificité des établissements recevant du public, comme celui-ci, donc voilà, qui sont normés, etc. Très rapidement, deux, trois petites vignettes. Pour un petit peu, et puis je vous laisserai pour conclure. Moi, je vous ai mis là les notions d'attractivité. Alors, c'est vrai qu'en place créativité, attractivité, on est aussi sous le monde de la séduction. Hein, c'est ça, en fait. Hein. C'est du serré, donc tirer à l'écart, donc ramener à soi. Donc, en fait, c'est ou une image ou un visage, mais c'est pas nécessairement, effectivement, le fait d'un lieu qui m'a séduit ou j'ai envie de m'y fixer, c'est aussi d'y rester. C'est de m'y sentir bien, et peut-être que j'avais prévu de déménager, mais finalement je vais y fixer ma famille, m'y sentir bien. Et la chose là qui m'a le plus surpris dernièrement, c'est lors d'une remise de prix chez moi, des nouveaux habitants qui sont venus me dire qu'ils s'y sentaient bien. Donc ça, je pense, pour un élu, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Et puis alors en plus, jackpot derrière, c'est qu'en plus ils y font venir leurs amis. Alors ça, c'est extraordinaire. On se dit qu'on a peut-être réussi quelque chose, peut-être, pas sûr, mais voilà. Donc c'est l'attractivité, c'est donc une tentative de séduction. Alors j'ai mis consommateur volontairement parce que forcément c'est quelque chose qui fait peur. On est dans un vocable marketing. On dit, mais on n'a pas un produit à vendre. Vous avez bien vu que les, il n'y a pas meilleur élu pour vendre son territoire. Ils ont été exceptionnels dans leur démarche. Et donc c'est forcément l'éveil de cet intérêt majeur, alors qu'il est rationnel ou irrationnel. Alors pourquoi? Donc là, je vous ai mis un tableau que vous trouvez sur Internet, qui est l'attractivité des villes. C'est un peu en tout petit, mais en fait, vous avez des ressources qui sont des ressources objectives et puis des ressources qui sont symboliques. Donc ça relève du rationnel et de l'irrationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous donne un exemple. Par exemple, quand on est dans le 93, par exemple, on n'a pas tout à fait la même image du département que ce qu'on peut l'avoir à La Rochelle, par exemple, ou ailleurs, ou dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que c'est bien rationnel? Est-ce qu'il y a autant de criminalité? Tout ça reste à prouver. Donc ces images-là fonctionnent et véhiculent quelque chose qui est de l'ordre de la symbolique. Notre rôle aussi, c'est de trouver une des composantes, un de ces vecteurs, peut-être certains de ces vecteurs, pour pouvoir d'abord les connaître, hein, déjà c'est la première des choses, et ensuite les paramétrer par rapport à la partie symbolique. Hein. Ça peut être l'offre en matière de déplacement en centre douce, ça peut être le fait qu'il y ait une cité judiciaire, ça peut être aussi des faits économiques à un moment donné, ça peut être le poids de la ville-centre par rapport à d'autres. Quand je dis ville-centre, c'est pas nécessairement grosse île, hein, ville de 1500 habitants, 1200 habitants, on est à l'échelon rural et ça fonctionne aussi, mais on a aussi ce vocable de ville-centre, donc comment est-ce qu'on vit ces centralités. Donc tout ça pour dire qu'il faut, je prône moi systématiquement le fait qu'il faut comprendre et à chaque fois être dans la recherche de ces vecteurs d'intérêt. Et donc là-dedans, ce tableau-là, c'est simplement l'intelligence économique se met dans un schéma général, c'est ce qu'on tout laisse que je prône, connaître notre environnement économique, l'aspect bien sûr géographique, environnemental, la relation avec les tiers, notamment les services de l'État, et les parties projets de territoire, les pays, bien sûr, la réforme territoriale qui exerce, et c'est important d'avoir à chaque fois les mêmes vues dupliquées, c'est-à-dire la vie de la communauté, l'EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale, la communauté d'agglo, communauté de communes, et voir le pays est important encore en ruralité à l'heure actuelle, et puis bien sûr au-dessus le département, la région. Tout ça, ça doit fonctionner ensemble dans un collectif, il faut bien sûr le connaître, puis l'aspect sociologique, connaître les populations. L'intérêt là, c'est en fait cette petite phrase. Les efforts traduisent bien la prise de conscience réaffirmée. Le pouvoir de la collectivité procède du savoir. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui dans une exposition spécifique et une thématique autour de la science.
De l'économie et de la connaissance.
Et de la connaissance. Et donc, je préconise qu'effectivement, ces efforts sont mis en Erzère pour mettre en place un outil de management, donc de contrôle de la collectivité dans son interne et dans l'externe par rapport au process marketing. Comment tout ça fonctionne? Et je termine là-dessus. En fait, tout fonctionne pour moi dans un même plan d'action stratégique globale. Alors, où c'est inné, ça, on l'a en soi, c'est venu naturellement parce qu'on a la cité des tanneurs, ça ne s'invente pas. On l'a, il faut tout de suite la mettre en exergue. Où on n'a pas. Alors, moi, c'était le cas chez moi, je n'avais pas grand-chose, entre guillemets, et à moi d'aller chercher effectivement ces intelligences. Donc, premièrement, on met déjà un premier jalon qui a un système de recueil d'informations. Alors, c'est les réseaux web, c'est la vie participative, c'est les agendas 21, c'est l'ensemble des banques de données qu'on peut avoir, le rôle de la DATAR, le rôle de l'INSEE. Faire fonctionner, et le rôle du collectif pour faire fonctionner tout ça ensemble, et faire qu'on ait effectivement une rotation pour arriver à un diagnostic de territoire. Une fois qu'on a mis ce diagnostic de territoire en face, eh bien on peut à ce moment-là se dépositionner pour aller rechercher et mettre en place un plan d'action stratégique marketing. À quelle échelle? Voilà, c'est le collectif qui va le déterminer. Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est le PCI? Est-ce que c'est la com d'agglo? Ça, voilà, le pouvoir est politique, donc à nous de le mettre en place. On ne détermine pas encore un territoire, bien sûr, derrière, sous-jacent, c'est le territoire. C'est quoi? C'est les forces, les faiblesses du territoire, les définitions des objectifs sur le moyen terme. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une population touristique totalement par rapport à, par exemple, l'origine de l'homme? Là, je lis, par exemple, eh bien, effectivement, le fait d'avoir un site préhistorique. Est-ce que c'est ça ce que je veux ou est-ce que je veux autre chose? Est-ce que je veux une ville universitaire? Voilà, on détermine nos axes. Construction d'une stratégie. Constructeur d'une stratégie géologique va donner un positionnement. Et une fois qu'on a ce positionnement, eh bien, on détermine qu'on va être voilà, la cité des tanneurs, le marais, l'éco-durabilité, la mise en fonctionnement, la culture comme pôle de confortement en termes d'image. Et ce positionnement, après, effectivement, pourra permettre, et seulement à ce moment-là, de mettre un plan de communication en place, thématique, qui va construire la promesse. Et à partir de là, effectivement, on pourra avoir un plan de communication classique. Voilà, et derrière, éventuellement de la promotion et du développement. Et tout ça fonctionne ensemble, à tout moment, dans un jeu de veille stratégique et thématique.
Merci. Je pense que c'était un peu rapide, bien sûr, mais excusez-nous. Mais peut-être qu'on pourra transférer vos transparents peut-être à tous les membres, parce que ça permettra de réfléchir à nouveau sur toute notre matinée. Et puis, comme nous sommes déjà à midi et demi, nous allons passer la parole... Pour conclure, à Stéphane Merceron, qui fait partie donc de la société Eurogusto, l'association aussi, et qui va nous donner quelques mots de la fin et nous ouvrir sur un colloque qui va avoir lieu le 17 novembre sur tout ce qu'on appelle le slow, etc.
Bonjour, puis donc, merci de votre invitation. Donc, Eurogusto est une association qui porte un événement international du mouvement européen Slow Food. Donc, Slow Food, bon, schématiquement, c'est l'inverse de fast food, vous l'aurez compris, mais c'est retrouver un rapport à l'alimentation. Enfin, c'est pas mal de choses. Il vous suffira d'aller sur le web pour en avoir des explications. On attend, je crois, généralement, dans une conclusion... que l'intervenant apporte quelque chose. Alors, je ne sais pas si je vais vous apporter quelque chose. Par contre, à travers vos échanges, vous m'avez permis déjà de répondre à deux questions. Comment j'organiserai mon événement en 2013, puisque là, on est dans 2011, et qu'est-ce que je ferai en 2012? Donc, vous m'avez déjà apporté beaucoup. Moi, ce que je retiens, plusieurs choses. Je dirais, c'est d'abord une dialectique, donc un dialogue, qui est, je dirais, assez protéiforme dans vos interventions. C'est le dialogue entre la culture et l'environnement. Culture, bon, je travaille dans les domaines de l'alimentation, l'acte alimentaire est sans doute l'un des premiers actes culturels dans l'histoire de l'humanité avec les pratiques funéraires. La culture, c'est quelque chose de très ancré dans notre société et qui vient de loin. L'environnement, même si on peut supposer que ceux qui nous ont précédés sur cette terre, y compris à l'âge préhistorique, avaient un rapport à l'environnement qui les amenait à préserver leurs ressources, l'environnement n'entre dans l'espace public et dans la politique de façon très récente. Donc il y a pour moi, entre la culture et l'environnement, un rapport dialectique également entre le passé et le présent, et que l'on retrouve, je pense, dans différentes interventions, par exemple, on peut prendre la cité des tanneurs, hein, donc un passé, et un présent qu'on va valoriser. C'est pareil pour votre projet en Eure-et-Loire, lorsque vous récupérez la halle et qu'à côté, vous mettez un équipement très moderne. Donc, dialectique entre la culture et l'environnement. Dialectique également entre ce qu'on pourrait appeler l'intérieur et l'extérieur, à savoir votre territoire et l'extérieur. Bon, avec quelques exemples, des personnes qui, à un moment donné, dans leur activité professionnelle ou lorsqu'ils vont arrêter leur activité professionnelle, viennent dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas et en deviennent élus. Je crois que c'est votre cas. J'ai cru comprendre que c'était également vôtre. Donc, entre l'intérieur et l'extérieur, y compris dialectique sur cette thématique-là, entre la nécessité d'ancrer un projet sur un territoire et d'y faire participer la population, donc pour qu'il y ait une appropriation, pour que ce soit leur projet, et puis, quelque part, des innovations, la créativité qui va venir d'ailleurs. Bon, l'un des exemples, c'est celui du festival dont vous avez parlé, puisque, si j'ai bien compris, à l'origine, le projet vient d'ailleurs. Mais par contre, il ne trouve son sens qu'au moment où la greffe se fait, et on voit bien également dans la durée, sur un territoire. Dialectique également entre, quelque part, une centralité. Et alors, j'ai cherché un terme pour faire le pendant, j'ai trouvé que pluralité. Alors, centralité, c'est le festival, donc c'est la semaine ou c'est un mois et demi, avec tout le reste de l'année. Donc la centralité, c'est quelque part l'événementiel. C'est le cas également pour l'événement qu'on porte. C'est ces trois jours qui traduisent un travail sur deux ans. Mais l'intérêt finalement de ces trois jours, de cette semaine ou de ce mois, ne prend tout son sens que s'il génère sur l'ensemble de l'année un travail en continu, alors qu'il peut prendre après différents aspects. Ça peut être un travail avec des écoles, ça peut être une attractivité dans le domaine touristique. Centralité, pluralité également. Donc là, je parlais en termes de moments, à savoir effectivement cette semaine, on va dire le reste de l'année, mais également entre un lieu central et ce qu'il va permettre de mettre en mouvement sur un territoire plus vaste. C'est ce que vous avez cité d'une certaine façon, puisque le point de départ de la cité des tanneurs, ça renvoie après finalement sur une mise en réseau d'autres sites. Vous, c'est pareil, enfin, y a le centre, mais en même temps, dans votre diaporama, vous nous montrez un paysage insoupçonné de la platitude de la Beauce, avec quand même quelques éléments intéressants. Et puis, bon, on va le retrouver également à Rouillac, puisque bon, y a la salle, mais la salle, finalement, c'est le support d'un projet territorial. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai retenu. Alors, j'ai pris d'autres notes. Et ce qui m'a frappé, ce qui me fait plaisir par rapport à ce que nous essayons de prôner au niveau de Slow Food, bon, c'est également, quelque part, toujours un rapport à l'alimentation. Alors, je vous invite à creuser cette piste, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut arrêter de faire dans la vie, on ne peut pas arrêter de manger. L'alimentation, c'est très souvent des moments de convivialité extraordinaires. D'ailleurs, vous en parlez en disant bah, les bénévoles, les artistes, mangent ensemble. Lorsqu'on est accueilli chez l'habitant, bah, on va aussi faire un repas avec eux. Lorsque l'on parle d'histoire de cuir, c'est marrant parce que je l'avais noté avant que vous en parliez. Bah, c'est effectivement, avant le cuir, il y a la bête. Partant de la bête, on peut aller sur la question de la biodiversité, de la préservation des races. Enfin, c'est tout à fait. Enfin, c'est... Voilà. On l'a également sur le Moulin du Marais. Puisqu'un moulin, sa fonction initiale en général, bon, c'est souvent la production de farine. Ce n'est pas que ça, les moulins, mais c'est souvent ça. Et donc ça, je trouve ça également extrêmement intéressant. Pour enchaîner avec... je regarde, j'ai quand même beaucoup de notes.
Chez nous aussi, on est parti de l'agroalimentaire, puisque nous, on est sur de la qualité de transformation, donc de masse, alors pour le coup, mais en même temps, avec des racines historiques... Et donc, le repas, c'est-à-dire le bien vivre, le bien manger, est au centre de nos aménités. Donc voilà, par contre, ben, c'est intéressant parce que tout le monde
participe. Le patrimoine immatériel et la gastronomie, qui est quand même inscrit.
Le repas gastronomique des Français. Le repas gastronomique des Français.
Oui.
Alors, ma première réflexion, c'était par rapport à différents rapports dialectiques. Le deuxième, on va faire très rapide, hein, vous l'avez tous cité, je crois qu'il faut le souligner, c'est créer du sens. Créer du sens et des situations. Donc là, je sais que c'est la deuxième, bon, je ne vais pas développer, hein, je crois que tout a été dit. La notion de plaisir également, ne pas être dans la nostalgie. Même si vous travaillez sur des sites qui ont un rapport avec le passé, enfin, je crois que c'est à peu près le cas de tous, sauf peut-être la création de 27, en même temps vous aviez la foire, et vous avez repris le nom de la foire, c'est on n'est pas dans la nostalgie, mais dans le présent, on se projette dans l'avenir, avec cette notion de plaisir. Je trouve, ce qui est peut-être également à souligner, enfin vous l'avez souligné, c'est la difficulté, a suscité une appropriation à un moment donné, difficulté à discuter avec les services de l'État, vous l'avez, c'est également notre cas, et pour ça je pense qu'il faut réussir peut-être à dans les discussions à faire passer l'idée que on n'est pas dans quelque chose d'immuable et que les normes et règlements d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Quitte à éventuellement, puisque les serviteurs de l'État en général ont une mémoire de l'institution, enfin on peut supposer que dans leur formation il l'est, à les choquer, à les heurter, en rappelant qu'il fut un temps où la société française était composée de trois ordres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il fut un temps où un certain nombre de fonctionnaires ont dû, alors comparaison n'est pas raison, mais savoir s'il fallait obéir, je pense à la France des années noires, enfin à l'État français, est-ce qu'il fallait obéir ou désobéir? Alors ça, effectivement, avancer ça avec un haut fonctionnaire, c'est une très grosse provocation, mais en même temps, l'idée, c'est de les amener simplement à dire, bah, il y a peut-être des possibles qui sont un petit peu différents de ceux qu'on est en charge d'appliquer à travers les lois et règlements. Et une fois qu'on les a brusqués, on peut peut-être prendre après des éléments de comparaison un petit peu plus slow. Il y a la gastronomie. La gastronomie, pour beaucoup de personnes, renvoie à l'image d'un restaurant étoilé au Michelin. Mais si on prend la définition de la gastronomie posée au 19e siècle par Bouygues Savarin, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc vous avez la botanique, vous avez les sciences naturelles, vous avez le commerce, vous avez les relations internationales, puisqu'il y a des conflits qui naissent pour accéder à des ressources. Vous avez l'épistémologie, vous avez la sociologie, vous avez la psychologie. C'est tout ça qui a été défini comme composant les sciences gastronomiques au 19e siècle. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, quelque chose qui parfois marche, enfin, je l'ai expérimenté qu'une fois, mais les gens qui expérimentent, en général, ça marche, et je conclurai là-dessus, c'est quand vous avez un projet, que vous avez besoin de convaincre un certain nombre de personnes d'y participer, de montrer que ensemble ils réussiront à être créatifs et à être plus forts pour porter un projet, ben vous pouvez les inviter à apporter, vous choisissez l'espace, hein, ça peut être à l'occasion d'un pique-nique, ou ça peut être dans une salle communale, vous les invitez à amener chacun un ingrédient. Vous êtes assuré du concours d'un chef cuisinier un petit peu créatif. Et à partir de ce que chacun aura apporté, vous allez composer un repas. Ça va être bon et vous allez y prendre du plaisir. Et à la fin, vous leur dites, bah, finalement, ce qu'on a fait, c'est du travail participatif et c'est de la créativité. Chacun a apporté un aliment et on a réussi à en faire un bon repas. Voilà, donc ça, c'était pour finir par rapport à ça. Simplement parler effectivement d'initiative en lien avec la plateforme Créativité et Territoire. Donc Eurogusto, c'est une biennale européenne du goût, de la biodiversité et des cultures alimentaires, donc, qui a lieu à Tours les 18, 19 et 20 novembre. Donc eurogusto.org, si vous voulez regarder sur Internet de quoi il s'agit, et où on balaye justement l'alimentation sous tous ses aspects. Et en préambule de cette biennale, le 17 novembre, nous organisons à Tours, donc à l'École supérieure de commerce et de management Tours-Poitiers, une journée d'études, une rencontre sur le thème manger, créer, voyager vers un slow tourisme. Alors un slow tourisme, c'est quelque chose qui est à définir. Alors il est à la fois équitable, il est à la fois durable, il prend en compte l'environnement, donc il y aura différents intervenants. Et donc l'idée, bah, c'est à travers cette rencontre de commencer aussi à coproduire quelque part, les critères d'un slow tourisme. Le mot slow est très, très à la mode. Mais bon, donc, voilà. Merci beaucoup.
On vous remercie. On termine cette matinée. On va pouvoir aller déjeuner tout de suite parce que le service est prêt. On est un peu en retard. Je voulais juste terminer. Et puis, Jackie va vous rappeler que cet après-midi, il y a aussi donc, une conférence sur l'économie créative. Terminé par une anecdote. J'ai un copain qui est fumeur. Et hier, il me dit, je suis allé voir mon curé pour lui demander, est-ce que je peux prier en fumant ? Non, c'est un scandale. Si tu pries, tu te concentres et tu restes dans la prière. Et après, il lui pose la question, mais quand je fume, est-ce que je peux prier ? Ah ben oui, bien sûr, parce que toutes les activités humaines que vous faites, vous pouvez prier. Donc quand je fume, je peux prier. C'est la possibilité de voir autrement le paysage. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vu les choses autrement. Alors prier sans fumer ou fumer en priant. Et c'est deux façons de voir l'univers et la vie que nous avons pu voir ce matin.
Juste quelques précisions. Donc, 14h ici, on reprend avec Anne-Marie. 14h absolument, voilà.
Voilà.
Voilà. Donc, 14h précise jusqu'à 17h. Ensuite, à 18h30, il y a une conférence aussi sur la créativité avec la MSHS, ici toujours. Et demain à 10h, puisque ces deux jours sont à l'intérieur de la fête de la science et de création-recherche, mais sont consacrés, comme vous l'avez vu, à la créativité des territoires. Ce matin, c'était plutôt la parole au territoire. Cet après-midi, c'est la parole aux chercheurs sur cette notion d'économie créative. Et demain, c'est le rôle possible de l'université dans cette démarche, avec ce soir une conférence particulière. Donc sur deux jours, et donc 14h, et effectivement, possibilité de se restaurer maintenant pour ceux qui sont intervenus et les accompagnateurs.
Qui s'appelle SoFood, qui est présent dans 160 pays. On a des grands événements à Turin, à Bilbao, à San Francisco, pour l'Europe, c'est désormais à Tours.
Je suis extrêmement intéressé, bien sûr, parce que comme vous avez pu le voir, donc j'essaie de parler sur cette thématique de l'alimentation parce qu'elle est au centre.
Mais
elle est inévitable, et effectivement, c'est la difficulté, c'est pour ça. C'est aussi les pratiques.
Alors nous, on défend une agriculture paysanne,
voilà. Etc. Oui, on se ramène. Je vous laisse une plaquette et puis vous allez.